Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, la nuit de l'after continue, c'est la 30e de la Coupe du Monde. Nous sommes là depuis le début, toute la nuit, cette nuit jusqu'à 1h du matin, dans l'after qui est sur RMC en direct, qui est sur la chaîne YouTube, bien sûr, de l'after foot, l'after première radio de France le soir. Daniel Riolo, Daniel, bonsoir.
Et bonsoir les amis.
Kevin Diaz avec nous également, salut Kevin.
Salut à tous.
L'événement ce soir, c'est bien sûr le match Espagne-Belgique qui vient de se terminer. Qualification des Espagnols demain. L'Espagne affrontera donc la France mardi prochain, 14 juillet. On va en parler longuement.
Tout est écrit
ce soir.
Dans cette Coupe du Monde.
Exceptionnel.
C'est un livre ouvert, cette
Coupe du Monde. Tu veux dire France-Espagne à 14 juillet ?
France-Espagne, la demi-finale, on a l'impression qu'on en parle depuis le premier jour.
Ouais, et c'est, hop, vrai,
c'est là. C'est de l'autre côté où c'était plus indécis.
Bah, si on a... J'avoue que j'aimerais bien avoir un Argentine-Angleterre,
le rêve.
Argentine-Angleterre.
Le rêve.
Là, si ça, on va convoquer l'histoire.
Franchement,
si ça c'est Norvège-Suisse, c'est moins sexy, on va pas se mentir.
Sûr. Et si ça avait pu être.
On va pas se mentir,
si ça avait pu être au Mexique, au stade Aztec, pour le remake.
Ah, tu veux Messi qui marque de la main, c'est ça que tu veux ?
J'ai envie de voir l'Angleterre aller loin pour voir un peu jusqu'où ce qu'ils ont en eux, quoi.
Si bah là, s'ils battent l'Argentine.
Non, d'abord, laisse-les battre la Norvège. Oui, non, mais et après, la demi-finale historique, on l'aura. Parce que là, si t'as un tableau. France-Espagne, Angleterre-Argentine, ouais. Permets-moi de dire que ça a de l'allure.
Ouais, c'est
je pense que Daniel va finir par nous dire que sa Coupe du Monde a commencé. Tu vois, avec
non,
le tableau
ça
comme
ça. Non, mais ça sert à rien d'être ironique. Ça sert à rien d'être ironique parce que depuis que j'ai dit on devait être au troisième match des 16e, on était encore à New York. Là, ça y est, c'est sérieux. En fait, vous savez tous que c'est vrai ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Kevin est d'accord avec moi. C'est toute cette formule, le troisième qui se qualifie et tout, ça a dilué. Et ça ne fait qu'une chose, contrairement à ce que vous disiez, genre vos espèces de belles paroles pour les petits et tout. En fait, ça protège les gros. Ça protège les gros. Oui, t'aurais jamais dû me lancer là-dessus. Ça protège les gros. C'est comme les têtes de série au tennis. Ça protège les gros.
À savoir que les 90% des meilleurs troisièmes ont été éliminés au 16e et juste il restait juste le Paraguay qui est sorti piteusement contre la France en 8e. Donc les meilleurs troisièmes pouvaient rester chez eux.
Ça ne servait à rien du tout.
Les meilleurs troisièmes pouvaient rester chez eux.
La qualification du Paraguay n'a servi qu'à une chose funeste, faire connaître la sénatrice.
Ouais,
voilà, quoi,
c'est celle-là, on aurait vraiment pu s'en passer en plus.
voilà.
Bon, on va analyser ce match. Il y aura l'équipe de France également tout à l'heure en débat, l'actu du jour. Et puis ce débat qui agite pas mal d'émissions d'RMC depuis quelques heures maintenant. Walid Acharchour s'est positionné déjà la nuit dernière, très tard. Mbappé est-il déjà le plus grand joueur français de l'histoire?
Je crois que c'est pas exactement ça qu'il a dit.
Est-ce qu'il est déjà à la table?
Voilà. De l'histoire, oui, je parle de l'équipe de France, évidemment. Je parle pas de l'histoire.
Non.
Pas de l'histoire du football. Non, je parle de l'histoire des Bleus.
Qu'il était à la table de Platini et Zidane en bleu.
Je parlais des Bleus, moi aussi.
Ouais. Ouais. Bah, je vois pas en quoi.
Bon, on débattra tout à l'heure.
Oui, enfin, si tu veux.
Mais... sans oublier le reste de l'actu lié à la Coupe du Monde et au monde du football. Et puis en fin d'after, on verra si le délire bandeau tresse de Daniel est vrai. On aura avec nous.
Ah, ça y est, enfin.
On a réussi à avoir un coiffeur.
Enfin.
On aura avec nous un coiffeur de star.
Et pas n'importe qui. Hein,
c'est-à-dire mon coiffeur. Bien sûr.
C'est pas le biggie au coin de la rue. Hein.
C'est le coiffeur de Neymar.
C'est du lourd. Ouais. C'est du très très lourd. Ouais. Et j'ai passé la journée à étudier les coupes de cheveux des amis hollandais notamment.
On a demandé à Samuel Umtiti s'il a réussi à avoir coupé.
Et Samuel, rien du tout. Il passait son pote, alors il dit qu'il n'y a pas de problème.
32-16, on vous attend. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After.
Là, Samuel, on a rigolé.
06-12-424-424. N'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, à nous écrire. Bon, on a vu un match sympa quand même ce soir, Espagne-Belgique.
On a vu une équipe contre...
Bah, je sais pas si c'est
hier soir Kevin croyait à la surprise belge.
Moi c'est pas ça que j'appelle un match sympa. Pour moi c'est
un match sympa à suivre.
C'est Mexique-Angleterre, c'est ce genre, c'est le Norvège-Brésil de l'autre jour. C'est quand tu as deux équipes qui essayent de faire quelque chose. Le match sympa, c'est pas quand une équipe joue et quand l'autre n'est là que pour attendre, bétonner le cul dans la surface. Et c'est souvent le cas des équipes qui jouent l'Espagne. Je pense que la France fera exception mardi soir, mais on n'en est pas là. Donc match agréable, évidemment, parce que quart de finale et donc la tension qui va avec.
Merci.
Parce que l'exploit est toujours possible et ça aurait été effectivement retentissant si l'Espagne était tombée. Et dans ce genre de match un peu traquenard, on sait que parfois ça peut arriver. Fort heureusement, ça n'arrive pas souvent parce que je crois que les gens qui écoutent l'after depuis longtemps savent que je ne supporte pas ce genre de scénario. Quand une équipe ne veut absolument rien faire sur le terrain, je suis désolé. Quand c'est une petite équipe, je peux l'accepter. Quand c'est une équipe qui a autant de bons joueurs dans son équipe et qui peut proposer autre chose, parce que dans les 5 dernières minutes, quand ils ont pris le but des réveillants douceur, là, des réveillants beauté, là, Merino, là, d'un coup, ils se sont mis à bouger, ils se sont mis à attaquer et ils ont même été dangereux. Donc bon, tu vois, au bout d'un moment, ok, vous avez voulu faire cette tactique-là, vous vous êtes dit, c'est le seul truc à faire contre l'Espagne, sinon on va se faire ouvrir. Eh ben, très bien, vous avez pris le but de Merino à la dernière minute. Au revoir tout le monde. Merci les Belges. Au revoir.
Edgar Grolot nous rejoint. Il suit le foot espagnol toute l'année, bien sûr. Il est à Madrid d'habitude, mais là, il est parti aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
T'es à Los Angeles, Eddy?
Non, moi-même, j'ai fait mon dernier match, donc là, je suis rentré. Là.
Ah, t'es rentré?
Ouais, je suis rentré.
Alors, on n'est pas informé. Donc, t'es à Madrid, là.
Ouais, tu nous as pas envoyé ton itinéraire. Hein.
Bah, là, je vais arriver au bon moment à Madrid, là. Pour suivre.
Exact. C'est Espagne. Ouais. Bien joué.
1h30.
Bien joué.
Bravo.
Bon, évidemment, tu débats avec nous. Le 32-16 également est ouvert, supporter du foot espagnol. Kevin, toi, ton analyse globale de la rencontre?
Bah, mon analyse, c'est que je pensais que les Belges pouvaient embêter les Espagnols, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Alors avec leurs armes ou pas leurs armes, ou en tout cas avec le plan de jeu qui a été décidé par Rudy Garcia, qui est un plan de jeu totalement différent de ce qu'avait la Belgique, notamment en 2018, où c'était une équipe qui jouait un peu à l'espagnol avec beaucoup de maîtrise. Avec
la Belgique de 2018
avec beaucoup plus de talent, mais avec aussi beaucoup plus de maîtrise, une équipe qui avait la possession et qui s'est d'ailleurs fait crever par l'équipe de France sur un corner, alors que l'équipe de France a été plutôt dominée dans ce match. Je vais pas dire que c'était un hold-up non plus, mais en tout cas, les Belges avaient été, sur le plan du football et de la production, je pense, meilleurs, mais les Français avaient été plus efficaces. Là, aujourd'hui, c'est quand même un match différent. C'est un match où l'Espagne retrouve un très bon niveau, où on a Lamine Yamal qui retrouve un très bon niveau, même si on voit que...
Il manque encore 2-3 contrôles. Il y a 2-3 choses un peu ratées. Bah,
il a failli faire Messi. Tu vois, là, dans les 10 dernières minutes, la passe par-dessus, où lui, il rate ce contrôle très difficile réussi par Messi. C'était contre le Cap-Vert, je crois, le contrôle incroyable là, et l'enchaînement derrière exceptionnel de Léo Messi. Lamine Yamal, on voit qu'il retrouve quand même des jambes, et puis il y a quand même une équipe qui est sûre de ses forces.
Il y a du banc parce que ça fait deux fois que Merino rentre et fait la diff.
Très bon joueur Merino.
On a revu Nico Williams, je pense qu'il est loin d'être au top, mais il commence à rentrer dans les matchs. Je ne sais pas s'il peut démarrer.
On a revu un Fabien Ruiz moyen mais décisif.
Il est loin quand même, Nico Williams.
Oui, je pense qu'il est loin.
Fabien Ruiz moyen mais
quand
décisif.
Quand tu relais Merino, Yarzabal, quand tu fais tourner, même Ferran Torres parfois maladroit et tout, mais ça percute quand même à chaque fois. Ça vient provoquer, ça vient essayer de faire des 1-2. Ça essaye de jouer. Toujours, ça met du ballon. Le contact avec le ballon, c'est quand même très agréable à regarder. Les Espagnols, c'est du vrai football, quoi. Là, en face, c'était genre on bétonne. Doku, T'es où Jérémy? Et hop là, vas-y, si tu veux nous faire un sprint de 80 mètres en éliminant 5 joueurs et en mettant une frappe lucarne, voilà, c'est ça le projet de jeu des Belges, quoi. Bon, alors ok, je veux bien. Tillemans s'est blessé à l'échauffement. Gros coup dur. Mais je suis pas sûr qu'ils auraient joué autrement.
Non, ils n'auraient pas joué autrement parce que c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a dit hier pour l'équipe de France. L'Espagne maîtrise tellement son sujet. C'est un sujet différent de l'équipe de France, mais l'Espagne maîtrise tellement son sujet de cette possession. Parce que si l'Espagne n'a pris qu'un seul but dans cette compétition et donc ce soir sur un contre et un beau centre et une belle tête, si on se rappelle bien de l'Espagne d'Iniesta et de Xavi, c'est des équipes qui gagnaient aussi de très peu d'écart. Souvent 1-0.
La Coupe du Monde 2010, c'est tout 1-0.
Ouais, et qui ne prenaient pas de but parce qu'ils avaient une forme de possession qui était au moins offensive que défensive, et donc un peu à l'image de ce que réclamait Johan Cruyff, en gros ils gardaient la balle parce qu'ils disaient que quand t'as le ballon, bah ton adversaire peut pas te marquer un but, et donc cette possession qui est aussi défensive et qui fait courir l'adversaire et qui épuise l'adversaire, bah c'est eux qui la maîtrisent le mieux. Et moi, je vais pas me cacher, moi je voulais absolument que l'Espagne gagne ce match parce qu'au fond je veux voir le match-up entre les deux meilleures équipes des 3-4 dernières années. La France était moins bonne il y a 2 ans dans le jeu, et avait peut-être moins de talent, mais là cette année France-Espagne, c'est la finale avant l'heure, on l'aura en demi et tant mieux.
Je pense que les Français vont aborder ça.
Il y avait quand même quelques points à jouer pour la Belgique.
Oui, vas-y, les gars.
Je veux dire, il y a quelques situations où si la Belgique, je suis d'accord avec vous, ils ont très mal joué dès qu'ils avaient le ballon et dès qu'ils avaient des opportunités. Il y en a eu pas mal qui ont été mal joués, un peu balancés.
Ils ont même pas 0-2 d'expected.
Il y a des actions où tu sens que si tu joues un peu mieux le coup, que t'as une idée offensive un petit peu plus intéressante,
de jouer ou de coup, enfin voilà.
Mais Edgar, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je dis ça en projetant sur la demi, ça va être l'équipe de France, il y aura quand même d'autres
C'est 68%.
C'est
68%.
C'est 2 minutes passées dans les 30 derniers mètres.
C'est 68% de possession de balle pour les Espagnols. C'est le double de passes pour les Espagnols. C'est uniquement 244 passes réussies pour la Belgique. C'est 13 occasions à 2. Il y a un moment, oui.
La Belgique n'a rien produit avec le ballon.
Tu t'es fait juste nettoyer, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Au bout d'un moment, au revoir, quoi. C'est pas possible.
Après, sur l'Espagne, moi je trouve qu'ils ont très très bien commencé leur match et que jusqu'à l'égalisation de la Belgique, c'était sûrement la meilleure période et la meilleure phase d'un match de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde. Et après, j'ai trouvé ça un petit peu moins bon. Je sais pas si vous avez eu la même impression.
Oui, non, mais c'est un peu moins bon aussi parce que la
dernière fois, dans tous les duels avec un temps d'avance, etc., au niveau de l'intensité,
tu tournes en rond. Exactement. Parce que tu trouves plus vraiment la solution. Les autres, t'es vraiment à l'arrache sur tous les gestes défensifs. Ils se sont remarquablement bien battus, tu me diras. Mais oui, après, tu rentres dans une espèce de à quel moment ça va passer, quoi. T'es là dans l'attente. Bon, bah, ça a craqué à la fin, comme les Portugais. Pareil, le Portugal, l'autre fois, c'est la même chose. Avec les joueurs que vous avez, avec les talents que vous avez, mais proposez-moi un autre football. Proposez-moi.
Les Portugais ont fait un peu plus que les Belges, quand même.
Bah, ils ont quand même quelques joueurs bien supérieurs aux Belges aussi. Ouais. Donc c'était un petit peu normal.
Le Portugal, un peu à l'image de ce qui s'est passé ce soir avec Thibaut Courtois et sa blessure et sa sortie, j'aurais bien aimé voir le reste du match.
Il a bien plombé les Belges d'ailleurs, parce que vu ce qu'a fait le remplaçant.
Ah oui, Lamens, il les a tués là-dessus. Mmh. Mais Nuno Mendes, s'il sort pas, c'est peut-être un autre match et le Portugal, ils peuvent en mettre un.
Bon, dans un instant, on va écouter Rudy Garcia.
À force de défendre, tu craques. Soit tu te blesses, soit tu fais une
erreur. Supporter belge, on vous attend. 32-16.
Quand tu fais que ça.
Supporter espagnol, on vous attend. 32-16. On continue l'analyse de ce match. On va faire une évaluation parce qu'évidemment, on veut tous savoir de Espagne avec Edgar qui joue la France donc dans maintenant 5 jours. Oui, samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 jours. 4 jours, exactement. Allez, à tout de suite dans l'after, on est jusqu'à 1h du matin.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois. Il est 23h18, la nuit de l'after continue jusqu'à 1h du matin. La Coupe du Monde continue, elle aussi. Bien sûr, la France affrontera l'Espagne, donc en demi-finale. On continue l'analyse de la qualif espagnole face à la Belgique. Il y a quelques instants, écoutez Rudy Garcia, le sélectionneur belge,
oula,
qu'on connaît bien, qui a réagi juste à la fin du match.
Coach, la Belgique a tenu tête à cette équipe d'Espagne. Et c'est... on a eu la poisse aujourd'hui, tout simplement.
Bah ça, c'est sûr que entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable à faire un résultat. Et pourtant on était tout prêt, au moins d'aller en prolongation. Ce qui est bien, c'est qu'on a regardé l'Espagne les yeux dans les yeux. Je pense qu'ils ont douté à un moment, surtout quand on a égalisé. Voilà, mais les grandes rencontres, ça se joue sur des détails. Donc on est bien évidemment tous solidaires de nos joueurs qui ont pu faire quelques erreurs dans le match. Mais contre ce genre d'équipe, il ne faut rien donner, il ne faut pas faire de cadeaux, il ne faut pas faire d'erreurs. Et malheureusement, on se fait éliminer là-dessus. Il faut que ça serve de leçon, notamment à nos plus jeunes, voilà, qui sont pleins de fougue, pleins d'enthousiasme, et qui doivent aussi rester cartésiens. Et réfléchir aussi sur le terrain. Mais franchement, je suis fier de mes joueurs. On a montré que la Belgique était une grande équipe dans ce mondial. Franchement, on n'était pas loin de continuer l'aventure. Ça s'arrête aujourd'hui, il faut l'accepter aussi.
Mais vous avez fait rêver la Belgique aussi, quelque part. Hein. Ça, c'est un point positif.
Ah, j'espère, oui, effectivement. On a vu les images après les USA. On a vu les fan zones et ça fait plaisir. J'avais dit que j'aimerais que les 12 millions de Belges soient derrière leur équipe nationale quand j'ai commencé mon aventure avec les Diables Rouges. Et je pense que c'est au moins cet objectif-là qui est rempli. Voilà, il faut qu'on ait le soutien de tout le pays à l'avenir encore.
Merci Rudy.
Voilà pour Rudy Garcia.
Là-dessus, c'est pas faux le dernier mot, parce que je sais pas si on s'attendait à ce que les Belges soient en quart de finale. On était un peu perdu sur la valeur et les qualités de cette équipe, parce que bon, on se disait De Bruyne, il est un peu fini. Lukaku, non seulement était blessé, mais lui aussi n'est plus au top de ce qu'on a connu de lui. Donc ça faisait déjà deux joueurs très importants, pas en bon état. Il restait Tillmans. Après, il y avait qui? Après, il y a tous les nouveaux Belges. Mais le problème, c'est qu'il y en a un paquet, il les a pas utilisés. Et bon. On va quand même dire que
De Cattelaire, moi franchement, je suis impressionné par ce gars.
De Cattelaire, ça fait un petit moment qu'on le sait, ouais. Et qu'on sait qu'il est bon. Mais par exemple, ton
Moreira, ami Moreira,
non, ben, le Fernandez Pardo, non. Tu vois, des mecs comme ça, peut-être qu'il aurait fallu... voilà, il y avait un plan de jeu qui reposait beaucoup sur ce que Doku pouvait faire en phase de transition. espérer un peu que De Bruyne retrouve deux trois jambes et deux trois passes, mais on les a pas vus. La vérité, c'est qu'on les a pas vus. Et après, bah, ça a donné ce parcours qui peut sembler positif, parce que quand tu vas en quart, c'est quand même, voilà, tu te dis, j'étais dans le top 8 et tout. Mais bon, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as offert un gros match? Est-ce que t'as fait,
t'es quand même revenu contre le Sénégal.
T'as eu ton match frisson quand même avec le Sénégal.
Faut bien sûr retenir les émotions quand même dans ce genre de compétition.
Oui, bah, le match frisson, tu l'as eu, c'est vrai.
Et comme dit Rudy Garcia, et comme disait le journaliste belge, quand même, les Belges ont vécu des belles émotions. Il y a eu des belles scènes de joie en Belgique sur les fan zones. Donc c'est aussi ça, une compétition internationale. C'est un peu ce qui s'est passé, bon, dans une autre mesure, mais avec le Cap Vert et les scènes de joie, même après la défaite très honorable contre l'Argentine. C'est aussi ça que tu retiens quand t'es une sélection qui est en pleine reconstruction, qui a perdu des joueurs qui étaient ou qui est en toute fin de carrière, avec des Kevin De Bruyne qui vont faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire du foot à leur échelle en tout cas. Et donc c'est quand même un bon résultat de finir en quart de finale.
Bon, après là, le journaliste qui lui dit vous avez la poisse.
Oui, non.
Bon, je pense que
vous avez regardé dans les yeux l'Espagne. Je ne sais pas s'ils ont regardé l'Espagne un peu de haut quand même dans les yeux, mais pas au même niveau quoi. C'était pas non plus le regard de Brest des westerns. Hein. C'était plus tu vois le regard du jouet de Toy Story.
Moi, j'ai du mal à comprendre quand on fait cette analyse là, quand on vient, on dit non seulement, alors premier point, vous avez eu de la chance, bon, ou pas de chance plutôt, bon, ok. Et vous les avez regardés, vous avez joué, enfin oui, au fin d'accord quoi. Enfin t'as juste couler un ciment quoi. Tiens, qu'est-ce que t'as fait quoi? Le Cap Vert contre l'Argentine, ils les ont regardés dans les yeux, ils ont fait un match. Ben là, oui, c'est un match. Ils peuvent l'encadrer quoi. Là, les Belges, ils vont encadrer quoi? Le Cap Vert a perdu, donc c'est défaite et défaite. Hein. Le Cap Vert, ils peuvent l'encadrer.
Le Cap Vert a perdu en prolongation quand même.
Le match, ils peuvent le prendre, ils l'encadrent. Tu vois, ouais. Ils en font un souvenir. Les Belges, ça, c'est quoi? Tu vas t'en souvenir de ce match-là?
Non.
Dans 4 ans, la Coupe du Monde, mais personne ne se souvient de ce match en Belgique. Il n'y a rien. Le match contre le Sénégal, oui.
Et les États-Unis, aussi. Après la polémique Balogun.
Bon, les gars, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. On va partir au stade parce qu'on a avec nous Eddy Brouzakis, qui est journaliste belge, qui est au stade ce soir. Bonsoir, Eddy.
Salut les amis, bonjour.
Salut.
Quelle analyse tu fais toi? Tu te dis de toute façon, la Belgique était en dessous, il aurait fallu un exploit?
Oui, c'est à peu près ça, c'était compliqué. Là, bon, il y a le score qui traduit difficilement, je trouve, la réalité du terrain, parce que l'Espagne était très clairement au-dessus, avec une large possession. Après, c'est vrai que les Belges ont dû composer avec la blessure de Tielemans, le capitaine à coup d'envoi, puis il y a eu celle de Thibaut Courtois pendant le match, et on sait qu'elle a eu vraiment des conséquences, puisque le gardien Senne Lamens se trouve sur le but espagnol. Mais dans l'absolu, on avait l'impression que les Belges allaient commencer à plier vraiment de partout, et que voilà, si c'était pas par Senne Lamens que l'erreur allait être commise, ça allait peut-être être par quelqu'un d'autre, mais dans l'absolu, on reste avec un goût de trop peu, parce que la réalité du sport, c'est aussi de savoir tenir une prolongation et d'espérer exister lors de la séance des tirs au but. Donc oui, un petit goût de trop peu, mais la réalité du terrain nous ramène à cette certitude que l'Espagne était très clairement dessus.
Il faut aller faire rentrer Penders.
Oui, moi je m'attendais à ce que tu dis.
Penders, pourquoi pas.
Et dis-moi, qu'est-ce qui était attendu en Belgique au début de cette Coupe du Monde, entre le groupe, qui était quand même pas compliqué, donc sortir du groupe, ça semblait être le minimum. L'état de certains joueurs, j'en parlais tout à l'heure avant que tu arrives, j'ai l'état de certains joueurs historiques, loin de leur prime. Qu'est-ce que vous attendiez de la sélection?
Mais ça, un quart de finale, c'était ce qui était attendu en amont de cette Coupe du Monde, pas vraiment davantage. Ça aurait pu s'arrêter contre le Sénégal aussi,
au vu des forces actives.
Oui.
Non,
voilà. Voilà, il y a tout à fait. Nous, la presse belge va sortir de ce tournoi avec le sentiment de Rudy Garcia, qui nous a quand même souvent surpris agréablement avec des choix forts, sortir De Bruyne, sortir Doku au coup d'envoi de certains matchs. Il a aussi bien ménagé Romelu Lukaku, il en a tiré la quintessence. Donc l'objectif dans ce tournoi, c'était les quarts de finale. En dessous, ça aurait été une déception. Davantage aurait été merveilleux, mais on n'oublie pas, parce qu'on n'est pas dupe, que jusqu'à la 85e contre le Sénégal, là c'était quand même vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est mission accomplie pour les Diables Rouges, je dirais, que ce quart de finale.
Rudy Garcia, donc, il garde une image de positive, on est content de ses services en Belgique.
Oui, là pour l'instant, oui, jusqu'à la 85e contre le Sénégal, pas du tout. Là c'était... Attendez, je dois parler doucement. Attendez, parce que je suis en mix zone pour tout.
Ah, je suis en zone d'interview,
donc on me demande de parler doucement.
Ah, tu t'es fait virer.
Et il y a les joueurs qui sont derrière. Mais non, voilà, je suis là, j'ai reculé un tout petit peu, donc je vais parler un petit peu plus doucement.
Excuse-moi,
en fait, alors, vous me parliez de Rudy Garcia. Jusqu'à la 85e contre le Sénégal, c'était pas terrible son image, mais après, il y a eu cette remontada, et puis il a posé des choix très forts, mettre Doku sur le banc en profit de Luke Bakio, ça a payé. Il a osé mettre Kevin De Bruyne sur le banc, toute une rencontre aussi, ça a payé contre les États-Unis. Donc globalement, l'image qu'il a, c'est d'un coach qui ose prendre des responsabilités. Voilà, il s'est un peu durci, je trouve, dans la suite de ce tournoi, de temps en temps, dans certaines réactions, mais globalement, il ressort de ce tournoi avec une image positive.
Et dis-moi, ces derniers temps, quand même, vu d'ici, on a vu en Coupe d'Europe, notamment deux clubs belges qui, à chaque fois qu'on les voyait, moi, m'enthousiasmaient réellement, que ce soit Bruges ou l'Union Saint-Gilloise, avec un jeu... hyper dynamique, très généreux. Pourquoi la Belgique ne pense pas à suivre ce chemin-là en nommant à la tête de la sélection un Belge qui pourrait faire pratiquer ce jeu très généreux, déterminé, fait de pressing, comme un peu quand on voit jouer à la Saint-Gilloise ou Bruges? Pourquoi on ne s'orienterait pas vers ça?
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est réclamé? C'est un sujet qui existe chez vous?
Pas davantage que cela. Non, pas tant que cela. C'est vrai que l'Union a eu un jeu très, très vertical et l'idée, je t'entends quand tu dis que voilà, un entraîneur belge qui irait vers l'avant, qui aurait la volonté d'amener de la verticalité, de prendre le jeu à son compte. Mais qui? Qui?
Moi, ceux qui ont officié à Bruges, oui. des gars comme ça.
Sébastien Pocognoli, par exemple.
Ah, oui. Et Pocognoli.
Sébastien Pocognoli, il a été très bon à l'Union, mais il était sans doute encore un peu tendre pour reprendre cette équipe des Diables Rouges. C'était quasiment sa première titularisation, je dirais, en tant que coach principal à l'Union.
Je suis parti
à Monaco avec la suite que vous connaissez.
Il faudrait forcément être un daron de plus de 50 ans, quoi.
C'est plus facile de diriger une sélection qu'un club aujourd'hui.
Ouais. Pourquoi on déciderait pas de mettre un jeune qui ferait confiance à des jeunes et qui enverrait du jeu?
Oui, Ebi, vas-y.
Oui, mais vous savez mieux que moi que la réalité, c'est le résultat. Et quart de finale pour les Diables Rouges, c'est bien. Franchement, c'est bien. Si ça s'est arrêté contre le Sénégal, j'aurais abondé dans votre sens. Mais quand je vois que même chez vous, parfois Didier Deschamps est décrié quand on voit son palmarès.
En ce moment, on n'a plus rien à dire.
Ce métier est compliqué.
Non, c'était le style
non,
de jeu.
Non, pas vous, nécessairement, mais je parle dans l'absolu.
N'oublions pas, d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle quand même, parce qu'on n'a pas encore fait réellement de bilan Deschamps. Mais n'oublions pas que l'Euro 2024, c'était juste il y a 2 ans. La France est allée en demi-finale. C'était d'un ennui profond, c'était terrible, quoi. Mais les choses ont depuis changé.
Ouais,
les joueurs ont demandé à changer la formule et Deschamps a eu l'intelligence d'accepter et de faire confiance au choix des joueurs.
Et puis on peut rappeler que même si faire des très beaux parcours comme vient de le faire Rudy Garcia, comme l'a très souvent fait Didier Deschamps, c'est important, mais ce qui compte vraiment en sélection, ça reste de gagner. Et que Didier Deschamps, en 14 ans, il a gagné une fois.
Et puis merci, je sais que tu dois avoir du boulot là, dans la zone d'interview.
Oui, parce que les joueurs arrivent. Hein.
Très bien,
les joueurs
on te arrivent. Laisse. Embrasse, encore, les gars, merci, encore merci de nous avoir accordé quelques instants.
Salut.
Evi Brouzakis de l'RTBF, la chaîne de référence.
Qui joue avant-centre, c'est quand même pas son poste, quoi, tu vois. C'est...
Ouais, ça reste un attaquant quand même, mais bon.
Pas pointe comme ça. Ouais.
De Cattelaire sur le but, franchement, chapeau l'artiste, parce que
ouais, bon,
tu as vu, il met le bras pour laisser son défenseur derrière lui. Il a un timing parfait.
Il sera pas mis en attaquant de soutien ou.
Oui, c'est un 9,5.
Ouais, voilà,
après, ça reste pas c'est pas chapeau 1 et 2, quoi.
Non, mais je pense qu'il est nettement mieux si tu lui mets une pointe devant lui.
Un des rares footballeurs internationaux avec une tête de premier de la classe.
Oui, une tête d'enfant. Et ça, tu lui donnes un cartable, un goûter, et c'est OK.
Ouais.
Le cartable et Choco BN, t'y crois.
Et un nom quand même propice au jeu de mots, quand même.
Charles de Cattelaire?
Ouais.
Ah bon?
Quoi, t'as des jeux de mots?
Cathéter, par exemple, tu vois, je sais pas.
Non, c'est nul.
C'est bien fait, Kevin.
Merci, Kevin. Dans un instant, Malik au 32-16 qui veut.
Flo Gautreau n'est pas là. Hein.
Malik veut nous interpeller. On conclut sur la Belgique et on reparle de l'Espagne. On n'a pas oublié de Gargorlo, bien sûr, parce qu'il faut qu'on se projette vers la confrontation face à la France, évidemment, qui nous avait fait rêver. Rappelez-vous, par exemple, en 2006, si vous voulez mettre Zidane à la retraite, les Espagnols, je ne sais pas s'ils veulent sortir cette fois. Edgar va peut-être avoir des idées. On en débat dans quelques instants. Avec vous, au 32-16. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois.
Vous êtes dans l'after, il est 23h33, nuit de l'after jusqu'à 1h du matin ce soir après la victoire de l'Espagne face à la Belgique de 2-1. On va se projeter vers la demi-finale Espagne-France dans quelques instants. Mais pour continuer tout de même sur le match un petit peu, on a Malik qui est là. Malik qui veut interpeller l'after sur les blocs bas, je crois. Salut Malik.
Salut à tous, bonsoir.
Malik, j'espère que t'es armé. Hein.
Ah, je suis bien armé.
J'espère
là,
que t'as pris ton ciment.
J'ai tout pris.
T'as pris la pelleteuse.
Ah oui, surtout pour Monsieur Riolo.
Ah.
Je suis là, je suis
donc
là.
C'est bien parce que lui, il a le marteau piqueur. Hein.
Ah bah allez, c'est parti. C'est parti. Parce qu'en fait, je sors donc de ce match Espagne-Belgique. J'allume RMC, la radio comme d'habitude. Et là, je tombe sur les propos de Monsieur Riolo, qui se plaint en fait du bloc bas belge, en disant que l'Espagne, oui, a joué contre un bloc bas belge. C'était leur tactique et en fait, les Belges, ils ont eu que ce qu'ils méritent. Mais en fait, l'équipe de France, depuis le début de la compétition, les mecs, 6 équipes, 6 blocs bas. Et il n'y a pas une seule fois où on a interpellé en disant, ouais, bah, ils ont eu ce qu'ils méritent et que l'équipe de France a attaqué, ils méritaient ça. Donc c'est là où j'en veux beaucoup à M. Riolo ce soir, c'est qu'il se plaint du bloc bas belge. Par contre, il ne s'est pas plaint du bloc suédois, irakien, paraguayen, etc. Hein? Donc ça, pour moi, je suis
J'ai pas compris.
Tu t'es pas plein des blocs des adversaires qui ont joué contre l'équipe de France.
Oh, bah, c'est pas mal, voilà, en fait. Si tu veux, je peux.
Après juste, si tu veux. Ouais, on en a parlé aussi tout à l'heure parce que, alors, la Suède, bon. Mais là, tu peux pas considérer que la Belgique a le même talent que l'Irak, que le Paraguay ou que certaines équipes qui ont apporté l'équipe de France.
Alors, si tu me dis à moi que je me suis pas plaint de ce qu'ont fait les Paraguayens et tout, mais moi je m'en plains tout le temps, je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est
non,
des petites équipes.
Non, pas contre l'équipe de France, Daniel. Oh, écoute, on a eu six matchs de l'équipe de France.
Bah alors si tu veux, je le fais. Si tu veux, je le fais maintenant. Mais de toute façon, historiquement, si t'écoutes l'after depuis des années, tu sais très bien que les équipes qui recourent à ça me déplaisent tout le temps. Que ce soit contre les Bleus, l'Espagne ou le Groenland, ce sera pareil. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais j'en veux surtout beaucoup plus tout le temps aux équipes qui ont des bons joueurs et à qui on demande de jouer totalement contre nature. Après, si t'es réduit à 10 par exemple, ça peut être une adaptation ou ce genre de choses. Il y a aucun problème avec ça. Mais non, je trouve que là, ta remarque ou ton procès, ouais, c'est au moins un peu fallacieux, parce que pour moi, c'est pareil. La Suède, l'Irak, mais l'Irak, je vais pas aller leur reprocher de faire un béton aux Irakiens.
Non, mais je ne parle pas spécialement de l'Irak, parce que la Suède, il y avait quand même Jokeres, Isaac devant. L'Espagne ce soir, ce qu'ils ont proposé.
Mais la Suède, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Ils avaient 2 points à peine. Ils sont qualifiés à l'arrache. Mais si tu veux, je peux dire que ça me déplaît autant. C'est pareil. Non, mais là, on perd du temps, parce que je suis d'accord avec toi, en fait.
Non,
on perd du temps, je suis d'accord avec toi, moi.
Beaucoup plus précis, c'est que l'Espagne, face à ce bloc bas belge, et face à quand même Doku, De Ketelaer, De Bruyne, Trossard ce soir, ouais, face à un bloc bas belge et avec des contre-attaquants très performants du côté belge, ouais, ils ont quand même réussi à se défaire de ce piège. Ils ont été parfaits techniquement.
Bah,
là
oui,
où
alors,
les Bleus, à chaque fois qu'ils ont joué contre un bloc bas...
Mais il t'a semblé qu'on n'a pas dit ça.
Une attaque extraordinaire.
Non mais Malik, t'as eu l'impression qu'on n'a pas dit ça.
Oui, la première chose que tu as dit, Daniel, c'est que les Belges ont que ce qu'ils méritent. Ils ont joué en bloc bas
et bah, et
à
donc...
la fin Michael Merino.
Mais qu'est-ce que tu dis de différent, en fait? Je comprends pas, en fait.
Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas mis en avant la performance espagnole ce soir face aux Belges.
Mais on n'en a pas encore parlé.
Où ils ont été littéralement parfaits techniquement.
Mais on en a pas encore parlé.
Là, je pense, Malik, que là, tu te trompes. Là.
Mais là, tu t'es venu. C'est très bien que tu sois venu. Mais...
Reste là, parce qu'on va justement.
Tu peux rester avec nous, mais évidemment, t'inquiète pas qu'on va dire à quel point. Mais je l'ai même dit que le jeu des Espagnols, c'est ce qu'on préfère, c'est notre football. Enfin, je comprends pas de quoi tu parles, en fait.
Alors, j'aimerais d'ailleurs qu'on parle des choix, mon cher Edgar, du jour. Parce que, oui, évidemment, Fabián Ruiz, est-ce que pour toi, c'est une surprise? Une demi-surprise, le fait que De La Fuente les titularisé ou pas?
Non, alors si tu m'avais dit au début de la Coupe du Monde que Pedri allait être sûrement pour un quart de finale, là je t'aurais dit c'est une énorme surprise. Mais quand tu vois ses prestations depuis le début de la compétition, bah en fait c'est là aussi que tu vois que le coach il a de l'autorité et qu'il sait faire des choix forts quand il le faut, parce que Pedri depuis le début de la Coupe du Monde, il est pas bon, c'est pas le Pedri qu'on aime, il est pas mis non plus en valeur par je pense le système espagnol en 4-2-3-1 qui lui permet pas de s'exprimer comme il aimerait s'exprimer, et là il est largement en dessous de son niveau. Même son entrée aujourd'hui elle impacte rien et donc il fait un choix intelligent à mettre Fabien Ruiz.
Pour moi, je pense qu'il faut arrêter avec ces trucs de choix forts et de machin et tout. Enfin, je vais le répéter pour la millième fois. Dans un football à 5 changements où tu n'es plus du tout dans les changements à la 80e ou 75e ou dès la mi-temps, dès la 50e, tu changes. En fait, tu partages ton temps de jeu, quoi. C'est tout. C'est comme Barcola et Doué. Et que Pedri ait démarré ou pas, très honnêtement, on s'en fout. Avec Fabien Ruiz, sont de très bons joueurs techniques qui, de toute façon, sont parfaitement adaptés au jeu espagnol. Le choix de Ruiz est récompensé parce que c'est lui qui marque. Après, je trouve qu'il commençait un petit peu à descendre et à être moins bon. D'ailleurs, j'ai pas trouvé en dehors de son but qu'il ait fait. Certes, il a fait un peu la courroie au milieu pour faire transiter les ballons de gauche à droite et tout. Mais en Espagne, ils savent tous le faire, ça. C'est leur école de football. Donc après, Pedri rentre. Bon, c'est le moment où ça correspond à la victoire, mais Pedri est pas fantastique quand il rentre, mais on sait très bien que peut-être que contre la France, il sera excellent. Tu vois, c'est que des bons joueurs les Espagnols. Ils ont ce luxe-là.
Oui, mais le statut de Pedri, il est autre.
Mais en fait, quel est le choix en fait? Démarrer un match ou faire rentrer un autre à la 50e? En quoi c'est un choix?
Ah, c'est quand même un choix quand tu as un des meilleurs joueurs.
Parce que le statut de Pedri, il est particulier.
Pedri, c'est top 15 Ballon d'Or, tu vois.
C'est fini le truc des statuts. Oui, si tu me dis que Mbappé, il a mes statuts, Mbappé, il est tout le temps efficace.
Pedri, c'est top 3 d'Espagne. En qualité individuelle au poste.
Pedri, avec Rodri et Lamine Yamal, c'est les 3 stars de la sélection.
Pedri, il
est pas tout le temps bon parce qu'il a eu des grosses blessures et qu'il a eu un peu de mal à enchaîner. Mais sinon, en termes de qualité intrinsèque à son poste, c'est le successeur de Xavi et Iniesta dans cette génération. C'est peut-être pas le même talent, mais c'est le successeur.
Écoute, alors, je vais essayer de te le dire autrement. Pedri, pour moi,
c'est pas un titulaire indiscutable.
Pedri, pour moi, mais je vais essayer de t'expliquer ma vision. Pedri, pour moi, si tu prends un contexte favorable à l'épanouissement du joueur, pour moi, je le mets dans le sac, tu mets Neves, Vitinha, Ruiz, tu vas en mettre beaucoup des milieux de terrain. Tu vas en mettre beaucoup. Donc, pour moi, c'est, mais on parle d'un panier, ouais. On parle d'un panier premier
le,
choix.
Le
hein.
premier,
on
le parle premier chapeau.
On parle d'un premier choix. Là, il y a de l'interchangeable. En revanche, si tu me parles d'un Mbappé, d'un Dembélé version PSG, et même là maintenant avec les Bleus, mais ce genre-là, ou Yamal, même un peu en dessous, parce que j'ai Bobo derrière la cuisse, tu vas jouer. Parce que toi, tu fais des trucs que les autres ne vont pas faire. Tu vois, pour moi, il y a une différence entre ces joueurs-là.
Il était dans la discussion pour le Ballon d'Or l'année dernière.
Mais ok, très bien, il peut l'être. Vitinha aussi, on peut dire
Vitinha, qu'il est. C'est titulaire indiscutable.
Okay, la saison où Lamine Yamal gagne presque le Ballon d'Or, Pedri, il fait une meilleure saison que lui en championnat. Hein.
Écoute, moi je vois, je sais pas si je m'en fais bien.
Quand je vois la compo, je suis surpris de pas avoir Pedri.
Non, mais que tu sois surpris, ok. Mais si c'est Fabien Ruiz qui joue, moi ça me choque pas.
Ça me choque pas, mais j'ai pas employé le mot choqué, mais ça me surprend très fort. Ah, je suis surpris. Si je vois Pedri sur le banc, c'est qu'il est blessé.
Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Si tu me mets à droite un autre mec que Yamal, je me dis Yamal est blessé. Là oui.
Oui, mais les gens se disent
mais
ça.
Mais pas pour Pedri. Bah pas moi.
Ah pas toi. Moi, en tout cas.
Moi, quand t'as les milieux de terrain qu'ont les Espagnols, avec leur qualité naturelle et tout.
Par contre, si tu me dis que Merino il est titulaire dans cette équipe, je tombe pas de ma chaise non plus. C'est-à-dire que là, c'est titulaire.
Pour moi, il y a un moule. En revanche, en dehors du moule, il y a peut-être Yamal qui est en dehors du moule.
Mais je veux dire, Pedri, c'est pas Gavi, quoi, tu vois.
Pedri, c'est pas Gavi,
à l'image de Marca, parce que Jimmy Brown suit ça de très près, qui titrait à 20h, Ruiz à la place de Pedri, genre 4 points d'exclamation.
Mais en fait, pour moi, c'est le foot d'avant. On est largué là-dessus.
Mais les
titulaires, qu'est-ce que ça peut foutre?
Les titulaires, ça vaut encore quelque chose.
Qu'est-ce que ça peut foutre qu'un mec démarre à partir du moment où maintenant tu peux le remplacer, tu le remplaces à la mi-temps, t'as 5 changements.
J'entends, mais tu mets.
Si tu vois qu'il démarre, toi, tu pourrais être coach, toi. Ouais. T'es directeur sportif. Ouais. Aujourd'hui, on est totalement décomplexé dans l'approche du match.
Ça c'est sûr.
T'es là, tu regardes. Il y a encore 10-15 ans. T'étais là, t'avais mis ton équipe de titulaire, t'étais l'entraîneur, t'avais l'impression qu'il se grattait la tête, il disait, putain merde, lui il est titulaire, je le sors ou je le sors pas. Aujourd'hui, mais, allez hop, mi-temps tu sors et pas de problème. 48e, 50e, tu sors, c'est bon. On passe à autre chose. On y va.
Oui, mais c'est comme ça maintenant. Tu as raison sur le fond.
Toi qui aimes bien voir les évolutions du jeu, je suis sûr que ça ne te choque pas.
Il y a aucun problème. Je te dis que même à notre niveau, on voit beaucoup d'entraîneurs maintenant qui font leur bande touche au moins de façon aussi consciencieuse que leur équipe type pour avoir des armes, pour avoir des solutions. Il y a aucun souci. Mais il y a quand même des indéboulonnables. Et normalement, en Espagne, Pedri fait partie des indéboulonnables.
J'aimerais qu'on écoute le sélectionneur espagnol. Edgar, t'es prêt à traduire?
Ouais, je l'écoute.
C'était il y a quelques instants, à l'issue du match. C'est parti, traduit par Edgar Grolot.
Pues sí, es el carácter del equipo, la actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia.
C'est l'attitude qu'on a tout le monde, qu'on a tout le temps.
Reiterar mi orgullo de dirigir un equipo tan comprometido.
Je répète ma fierté avec cette équipe. Avec cette envie toujours de progresser, de s'améliorer, de grandir. On aurait voulu gagner plus tranquillement, mais on sait à quel point ce monde est équilibré. Et à quel point c'est difficile de gagner ce genre de match à ce niveau en Coupe du Monde.
Del plan B, del plan A, es un valor seguro este futbolista. Vaya mundial está haciendo.
Merino, c'est le plan B en sortie de banc, c'est une valeur sûre et il fait un super mondial.
Il
pourrait jouer dans n'importe quelle sélection, n'importe quelle équipe. Et avec nous, c'est un des symboles de ce modèle-là. Et dès qu'on a besoin de lui, il est toujours là.
Ah, il va parler de la France.
Maintenant, vous allez devoir affronter la France.
Y se ha ganado el derecho a pensar podemos eliminar a Francia, es España, ¿no?
Bueno, on a, s'il y a bien une équipe qui a gagné le droit de se dire on peut éliminer la France, c'est l'Espagne, non?
On
va travailler pour essayer de battre la France.
La única solución en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente.
On est la seule équipe au monde qui a réussi à les battre deux fois d'affilée. Et on va affronter une nouvelle très grande équipe.
No hay dos sin tres, mister. Muchísimas gracias a por Francia.
Gracias por todo.
Voilà, et merci.
Merci Louis, maintenant c'est Edgar. La France.
Voilà, maintenant c'est la France, effectivement, on va en parler de nous dans quelques instants. Avant de parler de l'équipe de France et de la confrontation, du style qu'on va voir, faisons une petite évaluation juste après la pub pour nous dire, voilà, tu veux dire qui t'a aimé, Edgar, qui t'a pas aimé, on va partager ses avis ensemble. Je remercie Malik au 32-16. On est là jusqu'à 1h du matin.
Il ne s'inquiète pas, on pense le foot comme lui, hein. On félicite l'Espagne, on adore. Le football technique, on est là.
Et jusqu'à 1h du matin, on est là avec l'équipe de France également au programme après minuit. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec Edgar Grolot, il est 23h48, nuit de l'after jusqu'à 1h du matin. Avant de se projeter vers la confrontation entre Espagne et France mardi prochain, finissons le match de ce soir avec une petite évaluation espagnole. Edgar, quel a été le meilleur espagnol du match pour toi?
Bon, celui où en tout cas son niveau est incomparable au match d'avant, c'est Lamine Yamal qui, je trouve, on a retrouvé sur voilà tout ce qui manquait dans les derniers matchs, sa vivacité, sa capacité d'élimination.
Arrivé blessé à la Coupe du Monde,
je le trouve encore un peu mal.
Oui, voilà.
Enfin, sur les 60
premières
minutes.
Non, mais alors je te dis pas qu'il est à son meilleur niveau, mais là on a retrouvé le Lamine Yamal qui
déséquilibre.
Bah, je trouve qu'il est baissé, il a peut-être baissé un tout petit peu en rythme justement au fil du match, mais tu sens quand même un autre joueur que ce qu'on avait vu depuis le début de la compétition. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour eux, et je pense que faut espérer, faut croiser les doigts qu'il arrive pas encore à trouver à trouver la mire et à affiner peut-être sa patte gauche sur ses enroulés, sur ses finitions face aux Bleus, parce que là tu retrouves vraiment le joueur qui te change un match. Maintenant, il y a individuellement, je trouve pas énormément de joueurs espagnols ce soir qui ont été au-dessus du lot. Je suis quand même déçu par la prestation de certains joueurs. Regarde sa balle.
Tu l'enlèves de la bouche. J'allais dire, il va falloir quand même qu'on s'arrête deux secondes sur Rodri, parce que on l'avait un peu perdu de vue depuis le Ballon d'Or. On sait pourquoi. Là, le Rodri que je vois là. C'est
le joueur qui casse le plus de lignes par la passe dans cette compétition.
C'est à la fois la gare de triage, il fait tout quoi dans la gare quoi. Il lance les trains, il intercepte, il est fantastique.
Tu vois, lui, il y a un cliché exemple, autour de ce joueur, il apporte rien.
Mais pour moi, Rodri au top de sa forme milieu de terrain, lui il est dans la case à part.
Mais il est Ballon d'Or déjà. C'est normal. Ouais, mais c'est normal, ça veut dire que
en fait quand tu fais ta remarque, c'est comme si tu confirmes ce que je dis.
C'est les deux. Pour moi, les deux. En Espagne, c'est les deux.
C'est la case à part. Si Rodri ne démarre pas le match, là, je vais faire « Ah ouais, il est blessé, mais pas Pedri. »
C'est le capitaine.
Ah, ok, les gars, donc en fait, ce que vous faites, c'est une ponctuation pour dire « On est d'accord avec toi ?»
Non, mais c'est les deux. Pour moi, c'est pareil.
Mais je crois qu'on était déjà d'accord avec toi tout à l'heure.
Non, parce que sur Pedri,
parce que lui, il disait qu'il n'est pas
sur les changements,
mais c'est pas un titulaire. C'est genre, il faut qu'il soit là tout le temps. S'il n'est pas là, personne ne peut le remplacer. Pedri, je pense qu'il y a du monde pour remplacer.
Amusons-nous à un truc.
Rodri, il démarre pas le match. Je pense que t'es très emmerdé.
Je t'assure que Zubimendi, quand tu vois les matchs qu'il a, tu vas rigoler. Mais Zubimendi, tu vois les matchs qu'il a fait avec l'Espagne quand Rodri était pas là. C'est exceptionnel. Hein. C'est... Il y a eu plein de matchs où l'Espagne était très performante sans Rodri. Maintenant, c'était pas en Coupe du Monde, donc c'est pas la même histoire.
Amusons-nous un petit jeu, les gars. On est évidemment du tyrambique avec les quatre nos quatre mousquetaires français là devant.
Ah, toi, tu les appelles les mousquetaires. Ouais, les fantastiques, les mousquetaires.
On m'a proposé ça en me disant qu'Olysée c'était D'Artagnan parce que c'est le mec pas prévu qui vient en dernière minute.
Le truc, c'est quand même. À la base, c'est les trois mousquetaires. Donc,
ben là, c'est les quatre.
Le titre, ça n'a jamais été les quatre mousquetaires.
C'est pour ça que c'est les quatre maintenant. Ah, mais... Et comparons-les.
On ne l'était pas.
Hein. Comparons-les aux quatre espagnols, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. Pas photo quand même.
Non, il n'y a pas photo, mais bon.
Non.
Après, c'est complètement différent. Les Français sont des individualités très fortes, capables pour tous les joueurs de gagner des 1 contre 1 de façon assez facile, notamment par de la puissance physique et de la capacité de vitesse d'élimination. Les Espagnols, ils n'ont que Lamine Yamal dans ce. Ils avaient Williams à l'Euro.
Pour moi, c'est leur limite qui peut être compensée par le collectif, mais. C'est une limite cette année. On verra si ça.
Ouais,
ça
mais les Bleus aussi, ils l'ont ce collectif-là.
On verra si c'est vrai mardi. Mais la différence avec 2024, c'est que l'équipe de France ne pouvait pas opposer ces fameuses individualités qui déglinguent tout. Et encore. Sur ce match-là où ils se font promener, je rappellerai toujours que les Bleus ont marqué en premier et que Mbappé a une balle de 2-2 et que ça peut faire traquenard quand même. Même s'ils se sont fait manger tout le long.
Parce que la France est quand même une équipe avec des qualités individuelles.
Ah, exactement. Mais cette année, je trouve qu'ils en ont plus. Avec Olysée, Mbappé, Dembélé et Diogo Barcola.
N'oublions pas que pour Oyarzabal, c'est un super joueur, très intéressant, très intelligent. Mais Upamecano et Saliba, il faut les passer dans cette Coupe du Monde.
C'est pour ça que pour moi, c'est un 55-45.
Il est régulier, Oyarzabal, en faveur
des Bleus.
Il est irrégulier.
Pour moi, c'est un 55-45.
Ah ouais? Je crois que Kevin, t'es pas plus sur le 60-40?
Non, j'étais dans le 52-48.
Ouh.
Ah non, pour moi c'est très serré quand même.
Moi je vais vous dire 60-40 du fait de la différence de puissance offensive et d'assurance offensive.
C'est ça.
Ouais, mais au milieu de terrain, ils sont meilleurs quand même.
C'est ça.
Tu veux dire la doublette espagnole est meilleure que la doublette française devant la défense.
Bah déjà ils sont trois déjà. Ouais, ils sont trois déjà au milieu.
Eux ils sont trois
au milieu. La maîtrise du ballon.
Ouais, c'est différent après le fonctionnement parce que c'est un 4-2-3-1. Olmo qui joue extrêmement haut. C'est un peu différent. Et même Fabien Ruiz aujourd'hui tu regardes
qui sont trois.
Que faisait Pedri sur d'autres matchs.
Si tu projettes Olmo en gros, t'as les deux de côté, Baena et Yamal.
Ouais, Olmo est plus un milieu de terrain que.
Tu veux dire Olmo c'est plus un Griezmann qu'un.
Non mais là vous avez parlé du milieu de terrain.
Ouais.
Non là je disais au milieu de terrain.
Non mais j'ai dit si je continue les comparaisons, est-ce que Ruiz, Rodri, c'est mieux que Rabiot, Koné ou Rabiot Tchouaméni?
Non mais de toute façon,
s'il y a Rodri dans l'équation.
Si tu dois comparer les deux équipes, l'équipe de France au niveau individuel, ils sont meilleurs. C'est des joueurs qui sont meilleurs individuellement, notamment dans la capacité d'accélération.
Je pense que Koukouala est meilleur que Digne.
Oui. Moi, je vais dire, si tu regardes le 11,
tout le monde. Et à droite, il y a quand même.
Si, t'as Rodri, t'as Yamal, et peut-être Koukouala. Mais tous les autres, les Français sont meilleurs.
Mais la différence aussi,
si t'as un Pedri au top au milieu,
à l'inverse de l'équipe de France.
Oui, mais ça dépend ce que tu veux faire. Dans le jeu de l'équipe de France, Rabiot, c'est peut-être meilleur que Pedri.
La différence, messieurs, dans cette Coupe du Monde, la grosse différence, c'est que l'Espagne n'est pas encore à son meilleur niveau et n'a toujours pas montré son meilleur niveau. Là où la France, on les a vus vraiment atteindre un niveau exceptionnel. L'Espagne, on reste un peu sur notre faim et j'ai vu beaucoup, beaucoup de matchs sur les 2-3 dernières années de l'Espagne
qui sont meilleurs que
le niveau. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu d'accord sur le. Je t'aurais dit, c'est du 50-50. Mais là, depuis le début, et si les deux équipes ont le niveau qu'elles ont depuis le début de la compétition, la France est au-dessus. Ça, il n'y a pas vraiment.
Mais l'Espagne,
c'est un peu
la voiture allemande. Elle reste toujours sur son rythme de croisière. C'est-à-dire que l'Espagne, elle va jamais te faire un 80, elle va jamais te faire un 9 sur 10, mais elle va pas te faire un 3 sur 10 non plus.
Ça dépend si c'est une Mercedes.
Sur les deux dernières années, ça a été le cas.
Mais non, là, c'est. D'accord, mais l'Espagne, c'est en grande compétition depuis 2022, quand même, ça va. L'Espagne, à l'Euro 2024, ils ont jamais été extraordinaires, mais ils ont jamais été faibles non plus. Ils sont toujours moyen bon, voire très bon. Et c'est pour ça que tu dois toujours te méfier de cette équipe. Parce que ce que je disais, c'est que elle a de moins de qualité individuelle, mais elle a une ADN collective qui est indéniable. Les mecs, ils ferment les yeux, ils se donnent la balle quand même. Donc ça reste toujours quelque chose qui est difficile à déjouer pour un adversaire.
Non, mais je pense qu'il y a un joueur qui va compter beaucoup, ça va vous surprendre, mais en sortie de banc, et il faut absolument qu'il arrive à corriger un petit peu ses imprécisions techniques, mais c'est Ferran Torres. Ferran Torres est dans un bon jour. Non, mais c'est vraiment une option en sortie de banc qui est ultra importante pour l'Espagne et qui, depuis le début de la compétition, et on l'a encore vu ce soir, a beaucoup trop d'imprécisions. Ferran Torres, c'est un joueur qui, un jour, va te faire partie des meilleurs attaquants du monde parce qu'il est dans un grand soir et il peut faire des différences assez dingues. Et l'autre jour, tu vas te dire, mais il a même pas les niveaux première division. J'exagère évidemment. Mais et là, il est pas en forme depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais s'il arrive à corriger ça, c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, crée des choses, a des occasions. Et donc, c'est un joueur qui, et quand Daniel parlait du fait qu'aujourd'hui, les remplaçants sont de plus en plus importants, si t'arrives et que les Bleus, ils ont déjà dû défendre et ça va être pareil pour l'Espagne, évidemment, face à toutes les options françaises, mais si les Bleus, ils ont déjà galéré à défendre sur Lamine Yamal, etc., etc., et que derrière, t'as Ferran Torres qui rentre et qui est en forme et beaucoup plus précis techniquement, c'est-à-dire le niveau qu'on sait qu'il est capable d'avoir, ça peut changer la donne. Alors que si les entrants arrivent pas à être décisifs, je pense que l'Espagne va avoir beaucoup beaucoup de mal, parce que on sait très bien depuis le début de la compétition que les Français, quand ils entrent sur le terrain, et notamment Doué, Barcola, bah ils sont bons depuis le début. Ça n'a pas été le cas de tous les remplacements espagnols, sauf Merino évidemment, qui a été ultra ultra important.
Bon, alors ça c'est pour le jeu, c'est pour le terrain. Maintenant les Espagnols, ils vont y aller à fond. En 2006, ils voulaient mettre Zidane à la retraite. Là, ils vont se mettre
Je pense qu'ils sont plus du tout comme ça.
Ah ouais? Bah là, tu veux juste ce qui va se passer? Ils vont se mettre sur les côtes de Mbappé.
Ah, si.
Ils vont se mettre sur les côtes de Mbappé parce qu'ils sont déçus de Mbappé avec le Real.
Ça, tu veux dire?
Ah bah oui, là, mais Chiringuito, machin et tout. Oh non, voilà. Ça va envoyer pendant 4 jours, là.
Je demande à voir.
Non, mais Gilbert, t'as complètement raison. Ah, et oui. Je vais vous dire, il y a plus de rivalité dans l'esprit des Espagnols, des supporters espagnols, de la presse espagnole. Il y a beaucoup plus de rivalité France-Espagne que chez nous, les Français. Nous, l'Espagne, c'est un rival sportif. En ce moment, c'est vrai qu'il y a une rivalité. Ici, hein. Oui, non, mais il y en a une. Mais je t'assure que tu la sens beaucoup, beaucoup plus en Espagne qu'en France. Là, si tu demandes aux Français qui veulent absolument éviter de voir gagner la Coupe du Monde, ils vont dire les Argentins, ils vont dire les Anglais c'est nos ennemis toujours. Évidemment, on n'a pas envie que les Espagnols gagnent, mais les Espagnols, nous aujourd'hui, on est l'ennemi à la battre, on est le numéro un. Et surtout, je pense que dans l'esprit des Espagnols, le foot espagnol est supérieur au foot français. La façon de réfléchir le foot est supérieure au foot français. Après, la façon de jouer, la façon de former, et les clubs. Et là, ils ont Mbappé qui est la star du club le plus historique là-bas.
Permets-moi de te dire que globalement, on n'a pas envie de voir l'équipe de France.
Ils le vivraient très mal d'être éliminés par l'attaquant du Real Madrid.
Ni en Argentine, ni en Espagne, c'est pas une équipe qui est réellement supportée. On peut admirer ce qu'elle fait en ce moment, on trouve formidable, mais le football français, il n'est pas vraiment supporté. En Italie, personne veut voir les Français gagner. En Espagne, c'est pareil. En Argentine,
personne veut voir l'Allemagne gagner ou l'Angleterre gagner non plus.
Pareil. Donc, je répondais parce que il dit. On veut pas en Espagne voir. Oui, globalement.
Mais je t'assure que ils sont plus. On va voir. Au supporter espagnol moyen.
Rival quand même que français.
Oui,
il est plus. Il est. Non mais je vous assure que en tout cas mon ressenti sur place depuis 2 ans, j'ai été surpris en arrivant à quel point pour eux la rivalité avec la France compte énormément et vraiment. Et évidemment que les Français ils ont pas envie de perdre contre les Espagnols. Mais nous, quand tu penses au plus grand rival, au plus grand rivaux de la France au foot. À part là maintenant, parce qu'effectivement il y a cette rivalité sportive par rapport aux états de forme des équipes depuis 2-3 années, l'Espagne c'est pas notre premier rival, c'est pas notre deuxième, c'est pas notre troisième.
C'est
un peu derrière quand même.
Historiquement t'avais de l'Allemagne.
Historiquement on a quand même une grande rivalité avec d'autres équipes.
T'as eu l'Italie pendant très longtemps.
Bien sûr.
T'as eu l'Argentine, depuis 2018.
Historiquement l'Angleterre,
il y a plus beaucoup maintenant. Il n'y a plus tellement de France-Angleterre bouillant.
Oui, mais
culturellement,
ça vient d'autres choses.
Ouais, mais pas vraiment
la France-Angleterre.
En foot, c'est pas tellement culturel. Ouais.
Moi, mon adversaire historique, c'est l'Allemagne.
T'as des gros France-Portugal aussi.
C'est l'Allemagne.
Mais l'Allemagne, il n'y a plus réellement.
Ouais, mais c'est mon adversaire historique. T'en as un, toi, un adversaire historique. Hein. Tu te dis, celui-là.
Lui, c'est France-Italie. Dans les deux sens.
Ah, peut-être.
Pas vraiment, en fait.
Ah ouais?
Ça l'est devenu. Mais en fait, non, c'était plus l'Allemagne pour l'Italie. Ou le Brésil.
Ah ouais, l'Italie, le Brésil.
Il y a eu beaucoup de matchs historiques qui ont marqué des générations, quoi.
Bon, Edgar, surveille les médias espagnols, s'il te plaît.
70, il y a eu beaucoup.
Bien sûr. Si on voit une armée du Chiringuito.
Imaginez quand même l'attaquant du Real qui sort l'Espagne.
Les plus grands joueurs.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis.
Juste
point de vue positif, c'est souvent contre l'Allemagne, parce que 70, 82, même la demi en 2006, c'est un grand moment de l'histoire du football italien.
Mbappé, justement, on va en parler dans quelques instants. On va essayer de le placer dans le panthéon de l'équipe de France. Et puis l'actu du jour, évidemment, sera au programme. On parlera également du ratio des pénaltys faméliques dans cette Coupe du Monde. On essaiera de comprendre pourquoi. Daniel va parler des courses d'élan, mais peut-être pas que ça. Kevin va nous dire que les gardiens de 2 mètres, blablabla, blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse ce débat, d'ailleurs, parce que vous avez déjà tout dit. Bon, on le fera, on verra. Attends, ton micro. Oui.
Je dis là, tu as des chiffres.
Exactement. On les commentera. On se retrouve donc dans quelques instants ensemble. Et Fabrice Hawkins va nous rejoindre d'ailleurs pour parler de l'actu des Bleus.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 3 et la nuit de l'after continue jusqu'à 1h du matin. Daniel Riolo et Kevin Diaz sont là et la nuit de l'after c'est depuis le 10 juin maintenant et ce sera jusqu'au 19 juillet. On vit quand même une Coupe du Monde, on se régale. On était à New York.
Exceptionnel.
Certains sont restés, d'autres vont bientôt y retourner. On vous préserve quelques petites surprises. Les nuits de l'after vont continuer jusqu'au bout de la nuit avec des affiches quand même. Imaginez que mardi et mercredi, on se retrouve avec France-Espagne et peut-être Angleterre-Argentine. T'es pas sur une semaine de malade là pour finir la saison.
On est désolé pour les Suisses. Hein,
même la petite finale sera bien du coup.
Qui nous écoute beaucoup. Hein,
oui. On est désolé pour les Norvégiens aussi.
Désolé pour les Norvégiens qui nous écoutent peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, si tu peux avoir Angleterre-Argentine, c'est
Non mais Angleterre, Argentine sur le
Messi
continent américain en demi-finale.
Ils veulent pas le rejouer à l'Azteca.
Ouais, déplacez-le.
T'es sérieux, je l'ai dit tout à l'heure.
Ah bon, tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais.
Tu l'as pas dit assez fort.
Ouais, je l'ai dit tout à l'heure.
Il est où d'ailleurs le match? Il serait où?
Je crois que c'est Dallas, New York.
Je crois que c'est à New York, ouais. Attends, on va vérifier ça.
Pas vraiment l'Azteca.
Ouais. Non. Bah c'est le MetLife, ça sonne moins.
Il fait chaud quand même. Hein.
Ça sonne moins stylé. Alors attends, le 15, le match sera effectivement à, je sais pas, c'est à Atlanta.
Ah c'est à Atlanta.
À Atlanta.
Ok. Mais c'est pas l'Azteca non.
Ouais, c'est
non.
pas l'Azteca non. Plus. C'est encore moins l'Azteca que le MetLife.
Ah, bon. L'équipe de France, les gars, on en parle tout de suite avec Fabrice Hawkins qui nous rejoint. Fabrice, bonsoir.
Salut à tous.
Qu'est-ce qu'il dit le faucon?
Alors aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des infos sur l'équipe de France parce que c'était jour off.
Ah.
C'est ils avaient temps libre.
Quartier libre.
Quartier libre.
Effectivement, ils sont dehors avec un petit peu de chance, tu peux les croiser sur un vélo.
Parce que là, à minuit 5, il est 18h05 à Boston.
Exactement, donc ils ont encore 1h55 quand même.
Parce il y a un couvre-feu.
Est-ce que tu les croises, toi, avec un peu de chance?
Oui, je les croise avec un peu de chance. Oui, j'en ai croisé certains qui faisaient les magasins, d'autres qui profitent un petit peu, certains sont au parc. Ils essayent de profiter, ils sont en famille, beaucoup ont.
Donc l'info, c'est que Fabrice Hawkins, c'est un pouvoir d'achat qui lui permet dans les mêmes boutiques que le genre d'équipe de France.
Il y va parce qu'il est
Alors
suisse.
Moi, je les croise
il
dehors. Moi, je les croise
dehors
à la sortie, à la sortie des magasins.
Ah oui.
Ah oui, bah on sait à peu près où ils vont, donc c'est pas très compliqué quand on veut les croiser. Mais là, il se trouve que je les ai croisés par hasard en plus. Mais c'est vrai que ça leur fait une journée de repos complète. C'est la première où ils ont vraiment.
Il y a leurs compagnes qui sont là, les enfants ou c'est juste.
Ouais, exactement. Non, d'accord. Tout le monde est là. Ceux qui ont pu, voulu, ont dormi à l'hôtel aussi. C'était fait pour ça. Ils ont réservé, vous savez, ce beau complexe du Four Seasons avec énormément de chambres, quasiment 3 étages dédiés à l'équipe de France. C'était aussi prévu pour quand les familles viennent comme ça sur des journées de repos qu'elles puissent dormir.
D'ailleurs ça c'est un truc qu'on n'en a pas beaucoup parlé. L'équipe de France a privatisé un hôtel complet et ça coûte une thune incroyable.
L'expression c'est un pognon de dingue.
Un pognon de dingue. La qualif étant une bonne nouvelle parce que là la Fédé va rentrer dans ses frais là.
Avec un hôtel moins cher.
C'était l'objectif effectivement avant la demi-finale ça allait être compliqué. Là je peux vous dire que depuis qu'ils savent qu'ils vont se qualifier pour les demi-finales ils sont tranquilles.
Bah ouais.
Ah, le coût de l'hôtel, c'est en millions d'euros.
Bah oui, ah, je crois que tu avais dit c'est 100 millions,
oui, c'est
en
millions d'euros.
Non, je sais, j'ai pas le chiffre.
Là,
Fabrice,
là,
peut-être
le chiffre,
la
personne
tête,
là. Non, ils veulent le garder secret, mais ça coûte très, très, très cher.
En fait, la polémique qu'il y a eu avant la Coupe du Monde, c'est.
Oui, on en avait parlé. Hein.
Tu privatises un hôtel, il y a, je sais pas, peut-être 300 chambres là-dedans. Bon, mais en fait, est-ce que tu as besoin de tout ça?
Pas du tout.
En fait, si, eux, ils t'expliquent que toutes les chambres sont occupées. Il y a une occupation totale, parce que entre partenaires, parce que les joueurs, c'est une chose, mais t'as les gens de la Fédé, les dirigeants, les croqueurs, le Comex, etc.
Les croqueurs, donc, il y en a quelques-uns.
À la Fédé, on a expliqué qu'on voulait rationaliser à fond et qu'on voulait évidemment occuper toutes les chambres pour que la dépense.
Mais il y avait intérêt à aller en demi. Il y avait un trou dans la caisse. Résultat, voilà. Ça va en demi. Philippe Diallo peut dormir tranquille.
Après, ouais. Concrètement, les chambres, elles sont pas toutes occupées, mais il y a un étage, par exemple, qui est dédié, il y a une cuisine, un autre où il y a.
Oui, bah, bah s'il y a une chambre qui est
en salle de sport.
Qui est pour les kinés, je comprends qu'il y a
une chambre. Ils auraient pu te loger, hein.
Oui, franchement, oui.
Bah ouais, bah cela dit, t'aurais pas eu plus d'infos, vu que t'as déjà toutes les infos, donc pas.
Surtout, je suis très bien avec Jean-Louis et Arthur dans l'appartement ici, au centre de Boston, on est très bien.
Ah, vous avez un appartement?
Ah, vous avez un appart.
Ah oui, on a pris un petit appartement. Bah, faites pas semblant de le découvrir.
Non, je savais pas.
Je ne le savais pas.
Salle de bain commune?
Oui.
Ah oui.
Jean-Louis prioritaire le matin.
Est-ce que tu as noté le nouveau look de Jean-Louis? Est-ce que tu as fait attention à son nouveau look?
Le short?
Ouais, puis la casquette à l'envers et les lunettes un peu c'est façon vrai. Type Oakley là.
C'est vrai, tu as totalement raison.
C'est normal, la mode c'est l'américain. C'est Jean-Louis.
Franchement, c'est moyen. Je pense que Fabrice sait que c'est moyen.
Non, c'est
il
ne
va pas le dire, mais c'est moyen.
Faut respecter
mais dans les conditions climatiques, on peut l'accepter.
Faut respecter le chef du foot, Jean-Louis.
Ah bah, il ne s'agit pas de parler
de tour.
Il s'agit de faire un constat.
Jean-Louis de tour.
Aujourd'hui, il cherchait un coiffeur. Il m'a demandé conseil. J'ai dit, je ne connais pas Boston.
Ah, c'est $60 le coiffeur, par contre.
Minimum.
Bon, Fabrice, tu pourrais lui couper les cheveux.
Je pense que ça se vient comme ça.
Bon, débat Mbappé. Mbappé est-il déjà le meilleur joueur français de l'histoire du football?
Mais c'est pas le bon débat.
C'est pas le bon débat?
Bah non. C'est ce qui se met à la table de Zidane et Platini.
Ça, c'est ton débat. Alors, moi, je pose la question, est-ce qu'il a d'ores et déjà dépassé Zidane et Platini?
Non, s'il gagne la Coupe du Monde, oui.
En termes de palmarès, il a déjà fait mieux.
Parce qu'on ne pourra pas te faire autrement. Maintenant, le plus grand joueur en termes de résultats bruts, oui. Maintenant, il y a un truc dans lequel Mbappé va devoir progresser. C'est ce qui a son importance dans le foot, c'est l'affect. Il n'a pas encore gagné en affect le cœur de tout le monde en termes de résultats. Quand tu es champion du monde, vice-champion du monde, bah oui, t'es très haut. Pour moi, il y a une table avec Zidane, Platini. Moi j'ai toujours dit que Griezmann, qu'on a quand même tendance à vraiment oublier, je trouve, de façon totalement injuste quand on sait tout ce qu'il a fait pour les Bleus, c'était une table à trois. Pour moi, il y a une quatrième chaise avec Mbappé, dans cette Coupe du Monde. Parce que, oui, même avant cette Coupe du Monde, parce que il est quand même champion du monde et vice-champion du monde.
J'apporte des arguments.
Mais là, maintenant, il est leader en plus de l'équipe, ce qui change tout. Platini était leader de l'équipe, Zidane est devenu leader de l'équipe. Il n'était pas forcément en 98, mais il est devenu leader de cette équipe. Griezmann était un leader de l'équipe. Maintenant, Mbappé l'est. Donc oui, bien sûr qu'il a cette table.
Mbappé a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Personne d'autre l'a fait parmi les joueurs français. Là, il va faire finale, va vainqueur, finale, au moins demi-finale.
Ouais.
Ça pourrait être trois finales d'affilée.
Moi, si tu vas par là, si tu ne t'en tiens.
Il pourrait 20 buts en Coupe du Monde, il pourrait finir meilleur buteur de l'histoire.
Je te dis, je répète, pour moi, il est à la même table. Sauf que dans l'histoire, tu sais très bien qu'aujourd'hui, Messi, s'il gagne une la Coupe du Monde le 19 juillet, en Argentine, ils feront le débat. Et il n'est pas du tout sûr.
Messi ou Maradona, quoi.
Il n'est pas du tout sûr qu'il dépasse Maradona dans les cœurs. Il y a un truc dans le foot qui s'appelle l'affect. Il y a le résultat brut qui est incontestable. Et il y a la façon dont tu as été un précurseur de quelque chose.
J'ajoute,
élevé ton pays.
J'ajoute une autre notion, c'est l'héritage. Qui est difficile avec Mbappé. L'affect, c'est différent de l'héritage. L'héritage de Mbappé, tu ne peux pas. Il faut un peu de hauteur, de recul.
Rapport que tu crées avec la population. Platini a créé un rapport fort, c'est qu'il était pionnier, c'est que il y avait eu l'aventure de 58, mais que la traversée du désert, en gros du foot en couleur, la France n'avait personne. Et que lui est arrivé et a participé, à la révolution, au renouveau du football français. Et ensuite est arrivé Zidane avec son génie. Aujourd'hui, après moi, encore une fois, je n'oublie pas Griezmann, qui a été quand même le meilleur joueur de l'Euro, qui a été le meilleur joueur, en tout cas top 3 de la Coupe du Monde 2018, et il a été champion du monde. Il a été de beaucoup d'aventures.
Monstrueux en 2022 dans un positionnement différent.
Absolument. Lui aussi est là en 2022, ne l'oublions pas. Donc il y avait une table à 3.
c'est maintenant une table à 4.
Oui.
Si on fait des chapeaux et qu'on dit 4, dans le chapeau 2, je mets Thierry Henry.
Ouais, bon, et moi je mets pas un chapeau, je dis qu'ils mangent ensemble.
Ouais.
Oui. Non mais ce qu'est-ce que Thierry Henry ne mange pas cette moi je suis à la table d'à côté.
Non mais
Thierry Henry,
Thierry Henry, ça dépend si on parle de la table joueur français ou si on parle de la table joueur en équipe de France.
Joueur en équipe de France.
Voilà, joueur en équipe de France.
C'est ça le débat, c'est joueur en équipe de France.
C'est une table différente, mais
Henry en équipe de France malheureusement, il a jamais il a pas éveillé l'affect comme dit Daniel.
Le meilleur buteur de l'équipe de France pendant un moment quand même.
Comme dit Daniel aujourd'hui.
Dans la deuxième table, je mets Giroud aussi.
Non mais comme dit Daniel, aujourd'hui, ça a peu de sens de parler de qui est le meilleur joueur de l'histoire, d'ailleurs d'un pays ou du football tout court. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop difficile de comparer les époques. Et donc, même moi, j'aimais bien faire ce jeu, mais discuter d'ailleurs avec un agent américain qui est sur lequel, sur ce point-là, on était d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, comme dit Daniel, il faut parler de table, il faut parler de petits groupes qui auront survolé leurs différentes époques.
Tu as des pays où ça se détache, où c'est clair.
Oui.
Tu as des pays où c'est comme ça.
Oui, non, mais d'accord. Mais même dans les pays aujourd'hui, si tu regardes
Pays-Bas, il ressort clair que Cruyff est un peu le gars.
Oui, bien sûr, il sera un peu devant, mais à sa table, il y aura du Bergkamp, il y aura du Van Basten.
Je sais pas si c'est la même table.
Il y aura quand même du Van Basten, 3 ballons d'or.
Il y aura quand même
des gens à la table.
Okay,
tu vois, c'est une table de 4-5 personnes. Dans certains pays, il y en a 8. Dans certains, il y en a qu'un. Il y en a deux. Voilà, peut-être qu'en Roumanie,
il y en a deux.
Peut-être qu'en Roumanie, moi, le seul que je connais, c'est Hadji. Mais il y en a peut-être d'autres.
Lui mange tout seul.
Voilà, lui mange tout seul.
Popescu, que c'est joueur extraordinaire.
Oui, mais c'est pas la même table. Peut-être, voilà. En Argentine,
ils
sont une table à deux.
Ils sont face à face.
Messi et Maradona. Bon, après, la table, elle est très très haute en Argentine. Oui. C'est une table. Pour aller dans cette table-là, c'est les grands restaurants, quand même. Tu vois, c'est pas.
Ils sont plateaux, c'est une table à deux mezzanine.
Voilà. On n'est pas dans la table. Ouais. Voilà. Bon, les Français, on est
assez. Par exemple, Cristiano, il est tout seul à sa table. Dans ce cas-là.
Bah non, je suis désolé, non. Ah non, pour moi à la table de Cristiano, il y a Rui Costa, il y a Figo, il y a Eusebio.
Sérieux?
Bien sûr.
Bah oui.
Ah bah oui, Portugal, quand même. Oui. Ah bah en Portugal pour moi
Cristiano, il écrase tout le monde.
Il est peut-être non, un peu
pour
au-dessus.
Moi, Cristiano est seul à sa table.
Il est avec. Non, mais Eusebio, non. Ah, tu ne peux pas sous-estimer ce qu'a été Eusebio.
Oh, Cristiano, les gars, on est sur 200 sélections.
Dans les pays, il y a beaucoup de gens en Portugal. Comme dit Gilbert, Cristiano, il est devant.
Non, bien sûr, Cristiano est devant. Oui. Cristiano, disons qu'il a une grosse chaise à la table. Mais les autres, attention, il ne faut pas sous-estimer.
Bon, revenons à Mbappé.
Si Mbappé gagne le deuxième mondial, et je crois que c'est Daniel qui le disait, avec tout ce qu'il est en train de faire, ce sera compliqué de ne pas le mettre un petit peu devant
Zidane, dans ce cas-là, il a un pénalty très aigué de gagner la finale de la deuxième finale.
Non, on parle de table.
Bah oui, mais il y a des pénalty d'en gagner trois.
C'est difficile à faire en Angleterre, en Italie, où c'est plus toujours des groupes avec des défenseurs qui ont brillé. Les tables sont plus compliqués à faire.
En Italie, c'est un grand restaurant.
Fais la table numéro 1.
En Angleterre, c'est pareil.
Vas-y, fais la table ici en Italie. Il y a 6 places en Italie pour ta table.
6 max.
Ouais.
Bah, Gigi Riva, Baggio, Paolo Rossi, forcément. Cannavaro, Maldini. On est à 5.
Buffon.
Hein?
Buffon.
Dinozov.
On va être Buffon. Ouais.
Beaucoup de gardiens.
On va être Buffon, ouais.
Ah, mais t'as Dinozov.
Pirlo.
Ah, Pirlo, ouais. mais c'est parce qu'ils ont plus. Il y a rarement
c'est une grande famille, l'Italie.
Il y a rarement eu
Verratti.
Une individualité qui. il est à table à la cave, lui.
Non, mais il n'y a pas un Vieri, un truc comme ça?
Non, pas Vieri.
Non?
Non, pas Vieri. Non, non.
Il n'y a pas un Totti?
Je veux revenir à Mbappé avec Fabrice.
Derrière ce que j'ai dit, quand même.
Fabrice, raconte-nous. Son nouveau rôle de cette année là, parce que ça aussi ça change beaucoup de choses dans la perception.
La table allemande, il faudra la faire.
C'est sur le Mbappé qui est devenu une sorte de daron.
Même Beckenbauer et Matthäus.
Ouais, par rapport aux autres dernières grandes compétitions et notamment 2018 et 2022, c'est vrai qu'il y a une progression. Il a changé de poste. On l'a dit en 2018, il est à droite. En 2022, il est à gauche et là il est devant. Et de la même manière, il a progressé aussi dans son leadership. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est pas seulement le leader sur le terrain, c'est quelqu'un, et c'est vrai dans le groupe, qui parle beaucoup aux plus jeunes, qui emmène en fait le groupe, qui a quelque chose de très positif aussi. Il a toujours été proche de Didier Deschamps, mais aujourd'hui, bah, il va vraiment à l'image d'un vrai capitaine, prendre les conseils, il va relayer la parole de Didier Deschamps auprès du groupe. C'est des choses qu'il faisait pas forcément, et même dans un passé très récent. Donc c'est en ce sens aussi, tout à l'heure Daniel parlait de gagner les cœurs. Je pense que le public n'est pas dupe de ça, qu'il le voit, il le transpire aussi, parce que c'est quelqu'un qui a du mal, mine de rien, à cacher ses émotions. Et je pense que c'est en continuant dans ce sens-là qu'il peut aussi, évidemment avec la victoire, mais gagner les cœurs petit à petit.
Et est-ce qu'on a dit assez, Fabrice, que dans cette nouvelle, dans l'histoire de cette équipe de France, le rôle que Mbappé avait joué très en amont, finalement de la Coupe du Monde, c'est-à-dire dès qu'il a su que la saison au Real était un peu terminée, où il appelait régulièrement, il était vraiment le rouage essentiel de sa bande de potes, parce que on parle souvent de Dembélé dans ses potes, mais il y a Saliba, l'enfant de Bondy comme lui, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, et que il a sans arrêt essayé de les rassembler, de leur parler dans la fin de saison, même avant le rassemblement, sans arrêt les mettre dans l'idée la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est notre mission, on va y arriver.
Ouais.
Ce rôle-là, il est quasiment vraiment, comme tu le disais d'ailleurs, c'est vraiment l'adjoint de Deschamps, quoi. C'est vraiment le.
C'est un rôle de l'ombre, donc par définition, on peut pas le voir, c'est difficilement perceptible. Après, là où il a aussi beaucoup de chance, Kylian Mbappé, c'est qu'il est entouré de coéquipiers géniaux, qui l'adorent déjà de un, qui veulent le mettre en avant aussi dès que c'est possible. On a encore entendu les propos de Ousmane Dembélé juste après le quart de finale. Et non, c'est vraiment un groupe qui vit bien. C'est vrai qu'on a l'habitude de le dire et on a presque l'impression qu'on ment tellement on le répète, mais c'est vraiment un groupe qui vit bien et des joueurs qui sont très très motivés et ambitieux. Surtout, ils sont venus, ça fait moi des semaines et des semaines quand on échange avec les uns et les autres, ils ont qu'une mission, c'est gagner la Coupe du Monde. Ils sont obsédés par ça, même après le match contre le Maroc, pour avoir échangé avec certains, bon, ils rigolent deux secondes et puis ils disent j'espère quand même en demi-finale ça va passer. Et tout de suite ils se projettent, ils ont vraiment qu'une date en tête, c'est le 19 juillet, et tant qu'ils n'ont pas soulevé cette Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'ils seront pas tranquilles.
On a Alcin qui est là au 32-16 qui veut donner son avis. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez ?
On t'entend très bien. Ah, par contre, on t'entend pas super bien. Est-ce que tu... Vas-y, parle-nous.
Et là, vous m'entendez mieux ?
C'est mieux.
C'est moyen.
C'est moyen ?
C'est moyen, mais c'est mieux.
T'appelles d'une cabine qui marche pas bien.
Non, t'appelles de mon portable. pour moi, je vous entendais un petit peu, mais pour moi, Mbappé, aujourd'hui, non seulement il y a la cape de Platini et Zidane, mais il les a dépassés. Pourquoi ? Parce que Platini, je me souviens, il gagne l'Euro, il a 29 ans. Zidane, il gagne la Coupe du Monde, pareil, à 27 ans. Mbappé, il a 27 ans, il fait trois demi-finales de Coupe du Monde. La première, il est exceptionnel. C'est lui qui nous qualifie face au Pérou, contre l'Argentine en huitième de finale, face à Messi, Agüero, l'avait dit tout le monde. Il met un doublé, provoque un pénalty. Il va en finale, il marque en finale contre la Croatie à moins de 20 ans, seul Pelé l'a fait. En 2022, je vous raconte pas, c'est un récital. C'est lui qui nous qualifie face au Danemark. Il arrive face à la Pologne, il met un doublé. Il met un triplé, il donne la diarrhée à tous les Argentins et il face au plus grand footballeur.
Il donne la diarrhée.
Non mais, en fait là-dessus personne ne va contester. En fait sur le résultat brut, sur ce qui se passe sur le terrain, on est capable de voir comme toi. Mais en fait je pense que ça ne tient pas qu'à ça. L'image que tu as dans un pays, comment tu rassembles autour de toi, la façon dont tu es considéré comme un symbole, comme une figure populaire. Ça bizarrement, il a encore du mal parce que t'as beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Désolé. Moi, je pense que c'est très souvent
excellente
injuste.
Excellente remarque de Jimmy qui nous dit est-ce qu'à l'ère des réseaux, Platini et Zidane n'auraient pas eu des haters comme Mbappé en a aujourd'hui.
C'est tout à fait possible.
Mais sans doute moins parce qu'il s'expose moins quand même. Notamment
On s'inscrit dans une époque. C'est tout ce que je dis. C'est pour ça que. Mais tu sais, être à la table de Zidane et Platini, c'est formidable. Hein, tu sais, c'est magnifique. Oui,
hein. Alcin, tu m'as presque convaincu.
Non, mais toi, t'es déjà convaincu, Zidane.
Attends, il n'a pas fini.
Non plus, j'ai pas répondu.
En fait, c'est vrai qu'au début, Kylian Mbappé, quand il vient, il met tout le monde dans sa poche. Après, il fait des petites sorties, un peu de polémique, etc. T'as beaucoup de haters qui rentrent en ligne de mire. Mais là, aujourd'hui, il a tourné l'opinion publique. Moi, je parle pas en termes de qualité, Daniel. Tu peux apprécier le jeu de Platini, tu peux apprécier le jeu de Zidane, mais en termes de performance pure avec le maillot des Bleus, Mbappé, ce qu'il fait, c'est du jamais vu.
S'il vous plaît, messieurs.
Tu prends la Coupe du Monde 98, Zizou, c'est certes, tu prends le ballon d'or derrière, mais dans chaque match, il n'est pas forcément l'élément phare. En huitième de finale, il joue pas contre Paraguay. Tandis que Mbappé, à chaque compétition, chaque match qu'on gagne, c'est lui qui fait la différence. En termes de performance pure, il est au-dessus de
l'histoire. Mais Alcin, tout ton argumentaire est très bien, il n'y a aucun souci. Tu sais, c'est pas parce qu'on compare que forcément on veut diminuer les uns ou les autres. Mais déjà, il y a quelque chose. Alors, ils ont tous les trois le numéro 10. Mais des numéros 10, il n'y en a que deux. dans cette table. À cette table, il y a que deux numéros 10.
Mais l'histoire du numéro, c'est pas forcément ça. En fait,
attends, je vais finir. Laisse-moi finir, Daniel. Le sport, c'est juste, c'est ce que je vais dire, Daniel. C'est-à-dire que quand je te parle du numéro, c'est-à-dire que le football, c'est aussi le rapport avec le ballon. Mbappé, c'est un joueur monumental. C'est un des plus grands attaquants de l'histoire.
Il est moins technique que les deux autres.
C'est pas une question de technique. Il a une autre technique. Il a une technique de finition. Il a une technique d'élimination par la vitesse. Tu ne pourras pas comparer les danseurs qui étaient Platini et Zidane avec un ballon. C'est-à-dire que c'est comme si tu compares, je sais pas moi, un gars comme j'ai pas d'image qui viennent, mais tu peux pas comparer Batistuta et Maradona, c'est pas possible.
Batistuta, il aurait pu mettre, qui t'a plus le fait gagner, je pense.
Mais c'est pas la question de qui fait gagner, c'est la question du rapport sentimental que tu as avec le jeu.
Alors, est-ce que je peux, voilà, alors déjà tu commences à employer des mots qui m'intéressent. Les sentiments et l'émotion. Le foot, il y a une dimension, quand je parle d'affect, qui est très importante dans ce qu'il te laisse. En fait, les joueurs, qu'est-ce qu'il te laisse comme trace, comme souvenir. Si le sport devient uniquement un almanach avec des résultats, tu vois, l'almanach de Biftanen, ouais. C'est pas possible en fait. Ça ne peut pas être ça le sport. Ouais, il y en a qui vont continuer de préférer Federer à Djoko, même si Djoko avait gagné 25 grands chelems.
Mais ils ont le droit en plus.
Et ils ont le droit. Et pourtant, Dieu sait que l'autre est probablement le meilleur joueur de tous les temps. En termes de résultats, c'est incontestable. Mais l'autre a inventé quelque chose dans son tennis. Il avait une grâce qui touchait les gens. Exactement comme Nadal avait également ce truc-là. Un petit peu en plus, une personnalité, un truc.
C'est comme
évidemment, on n'est pas en train de parler. Attention, on est en train de parler de mecs qui ont gagné, qui ont fait des trucs fantastiques. On n'est pas en train de parler du sportif au coin de la rue juste parce qu'il a un beau style. On est en train de parler de Cador. Mbappé aujourd'hui, attention. Et en plus ici, tu peux pas dire que dans cette émission, surtout Gilbert, moi, mais même toi, Kevin. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup défendu. Le mettre à la table de Zidane et Platini, mais jamais j'aurais pensé le faire il y a encore deux ans. C'est extraordinaire. Moi, c'est vraiment un type que je trouve, dans sa personnalité, ce qu'il montre dans cette Coupe du Monde, extraordinaire.
Dans la personnalité, il est même peut-être devant les autres, même dans la
personnalité. C'est mentalement, ce gars est vraiment une machine. Maintenant, faut voir la trace qu'il laisse dans le cœur des gens. Et ça, c'est quelque chose
et le rapport,
qui
s'explique. S'il était moins clivant, si simplement il était moins clivant, Kylian Mbappé.
Non, mais c'est pas que ça.
Oui, il y a un peu de ça aussi. Il a raison.
Avec les accomplissements qu'il a fait, est-ce que on le mettrait pas déjà devant?
Est-ce qu'il est encore là, notre auditeur?
Alcin, il est là.
Alcin. Je vais donner un exemple. Je sais pas si tu vas le comprendre. Baggio est Ballon d'Or en 93 avec la Juve et il avait gagné. Il est révélation un peu mondiale 90. Ce qu'il a fait entrer dans le cœur des gens, là où il est entré dans la légende absolue. C'est qu'il ait raté le pénalty en 94. Lui, ça l'a déchiré. Il en parle encore aujourd'hui. Il ne digérera jamais cette blessure et tout. Et on lui a dit, et il le sait, il en a pris conscience. Il lui a fallu des années pour prendre conscience. C'est cet échec qui a fait que ce gars-là est devenu inoubliable. Parce que la façon dont il a touché les gens, ça a fait que ce gars-là a gagné, mais trois niveaux. Si on fait le jeu des tables, il a gagné trois niveaux. Alors que lui dit tout le temps, lui, il est vraiment dans le résultat, il dit, mais vous vous rendez compte? Si je rate pas ce pénal, on gagne cette séance. Non seulement j'ai un deuxième ballon d'or de suite, je fais gagner la Coupe du Monde à mon pays, on prend la quatrième étoile à ce moment-là. Enfin, c'est ma vie, elle est... Eh ben non. Mine de rien, les Italiens...
C'était une balle de match?
Non, mais ils peuvent gagner.
Ouais, ils sont encore dedans.
Quand même, ils sont encore dedans, quoi. Tu vois, voilà. Et c'est à ce moment-là, ils rentrent pour toujours et encore plus en tant que héros romantique, machin. Bon, ben voilà. Et ça, c'est le sport. Heureusement que le sport nous offre ce genre de débat sur les émotions, le sentiment, ce que t'éprouves pour un joueur.
L'image.
Et que c'est pas l'image, le symbole, l'image mentale. Et que t'es pas simplement, bim, le résultat. Ouais, mais il a gagné plus de titres. Ouais, mais il a marqué.
Pourquoi les gens aujourd'hui, on se
tout le monde a oublié que Baresi avait raté aussi.
Parce que c'est Baggio qui a tout porté.
Voilà.
Baresi l'a raté aussi.
Bien sûr.
Mais tout le monde a oublié.
Albertini a raté, mais c'est peut-être Di Biagio qui a tout porté.
Massaro qui avait raté.
Albertini a raté aussi en 98, mais c'est Di Biagio peut-être qui a tout. Mais juste Alcin, avant de te laisser la parole, toi tu es passionné, tu es peut-être de cette génération Mbappé, et peut-être que dans 10 ans les gens auront oublié Platini, comme nous on a oublié Coppa ou Juste Fontaine, et peut-être que les anciens, il y a aucun souci. De toute façon, le temps fera son œuvre pour Kylian Mbappé. déjà il est en train de retourner. J'étais encore une fois hier au Dopo, les gens l'ont ovationné, parisien pas parisien. Je pense qu'il a réussi à retourner ça, et déjà ça c'est monstrueux.
C'est génial.
Ça c'est monstrueux, c'est dans sa poche, c'est dans sa boîte, et elle va pas sortir. Par contre, tu ne pourras pas nous empêcher avec notre génération. Moi j'ai moins connu Platini, mais moi Zidane, c'est l'esthète, c'est le coup de tête de Materazzi, c'est une sortie d'artiste, c'est tu pourras, en fait moi tu pourras jamais me l'enlever en fait. Tu peux en gagner 3 des Coupes du monde, ça va rien changer pour mon image mentale de mon football. Et c'est pas très grave, c'est pas une critique envers quiconque.
Absolument.
C'est comme ça.
Je
suis d'accord, Kevin, mais le problème, c'est que c'est pas qu'une question de Kevin, une question d'Alton, une question de Daniel. Et pour revenir déjà à la Squadra Azzurra, Daniel, moi, je suis un très grand fan de la Squadra. J'étais un très grand fan de la Squadra. J'aimais beaucoup la Juve. Moi, mon plus grand joueur italien, c'est Alessandro Del Piero. Et moi, je suis un 89, j'ai joué aussi au football, j'ai joué en sélection. Mais je vais vous dire une chose, vous parlez d'émotion. Quand on, la Coupe du Monde 2022, en finale, quand on perd 2-0, et Mbappé, il met les deux buts, bah, il nous véhicule également de l'émotion.
Mais bien
quand
sûr, on est d'accord.
But, on met trois buts même.
Mais bien sûr, mais le deuxième but, moi, je me souviens où j'étais, à quel point j'ai crié. Et moi, je suis aussi un grand fan de Zizou, comme vous. Mais on peut pas, Mbappé, tu sais, hier contre le Maroc, là, quand tu fais le passe mondial crochet, c'est de la qualité technique, ça aussi, Kevin Diaz. Moi, j'étais explosif. Le geste technique qu'il fait sur le moment, mais c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Bien sûr, Zidane, et vous, vous êtes des anciens, plus anciens que moi, vous êtes des anciens, vous êtes un peu nostalgiques. Mais aujourd'hui, la trace que Mbappé va laisser aux générations futures, mais ça sera
mais on est d'accord. On est d'accord.
Ça, on est au contraire.
Hein. On est d'accord sur tout.
On est d'accord. C'est juste, on a fait une table à 4.
Mmh. Bon. Alsa, merci en tout cas. Tout est bien.
Si on parle principalement d'émotion, peut-être qu'effectivement Griezmann quitte la table.
Pourquoi ?
Juste sur.
Ah si, il y a les émotions quand même. Le France-Irlande, le France-Irlande, l'Allemagne. Non, c'est le chouchou des Français. C'est le chouchou des Français dans un monde où il y a beaucoup de critiques, où lui a été très peu
bien,
critiqué.
C'est bien les quatre, les carrés là. Ils sont là tous les quatre.
Même si je pense que
d'ailleurs, je pense que ce concept est en train de prendre le feu. Donc je pense que lundi, on devrait faire la table du Brésil.
On me la demande là.
Et bon, on va les faire, on a le temps, on fera ça lundi. On va pas improviser, parce qu'il faut réfléchir un peu.
Et moi, je pense que la table du Brésil, elle est pas dure. Hein.
Oh, elle est pas dure.
Elle est pas dure.
Ah, moi, je pense qu'il va y avoir débat. Je pense qu'il y aura des débats.
Pelé, Romario.
Déjà, la table du Brésil, Ronaldo. C'est pareil, c'est un peu comme la table du Portugal. T'as une grosse chaise. T'as une chaise qui est énorme. C'est la chaise du patriarche. C'est pour Pelé. Ouais, c'est le roi, tu pourras pas.
Et à sa table, il prend qui?
Et à sa table, il prend Romario,
Ronaldo,
peut-être Socrates.
Il est obligé de prendre Ronaldo.
Zico,
il va prendre Ronaldo.
Bah, Zico.
Tu peux pas lui enlever Ronaldo.
Zico,
bien sûr.
R9, ça va pas te plaire, mais il prend Neymar.
Mais jamais de la vie.
Mais vous êtes fou.
Mais jamais de la vie.
Malade.
Vas-y, va à la cave avec Ronaldo.
Écoutez-moi bien.
Au mieux, il prend Neymar.
Mais
il a rien fait.
Prends Van Peta.
Mais il a rien fait. Lui, il a la table de Van Peta. Il a la table carrément
pire pas de Zico avec Neymar.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Mais
t'en fous.
Mais c'est le plus grand président des 25 dernières années.
Mais t'es fou. Il a jamais rien fait.
Mais si, il a été blessé. Il a pris un coup. Mais il a pris un coup.
Il a laissé au Brésilien.
Bah déjà, il a gagné au Brésil. Pour toi n'est rien. Il a gagné les JO. Et si
la compétition de substitution des losers.
Attends. Mais laisse-moi parler. S'il n'avait pas été bouché par un Colombien qui lui a mis un chassé. Si on lui avait pas fait un coup de boucher,
mais oui, donc il y a des si, quoi.
Mais non, mais d'accord.
S'il y a des si, il n'y a pas de discussion.
Mais il est monstrueux.
S'il y a des si, il n'y a pas de discussion.
Mais il est monstrueux dans sa Coupe du Monde.
Il n'y a pas de discussion.
Il
y a des si, il n'y a pas de discussion. Mais pas la Coupe du Monde où il termine par un 7-1.
Mais il n'est pas là au 7-1.
Il n'est pas là. Il n'est jamais là quand
il prend un coup de
genou. Il est jamais là.
Il prend un coup de genou.
Là où il ne rate jamais rien, c'est en boîte. Là, il ne rate rien. En boîte, il ne rate pas une bouteille.
Neymar, il est à la table. Je te le dis. En termes de talent pur, il est à la table.
Son avion est arrivé à Vegas aujourd'hui.
Pour que Neymar soit à la table, il faudrait un dessous de table.
Ouais.
Non, vous êtes vous dire qu'il est à la table.
Tu vas pas mettre Neymar.
Il a une petite chaise, mais il est à la table. Ah non, je suis sérieux.
T'es fou.
Mais en termes de talent pur, vous êtes fou.
Sur les
25
dernières années. Et demain, Kevin va dormir après, il va rentrer à la maison. Et demain matin, il va se dire.
Comment tu
peux. Il va se dire hier soir,
je le mets à la table des plus grands joueurs brésiliens de l'histoire.
Kevin,
mais t'es fou.
Mais si.
Fabrice, t'es d'accord quand même avec Daniel et moi. Là, on a perdu Kevin Diaz.
Appelez. Malheureusement, les émotions ne se discutent pas. Je suis d'accord avec Kevin Diaz.
Merci.
Le Ney, c'est le Ney.
Et merci Fabrice.
Envoyez la pub. Je suis désolé les gars.
Envoyez la pub. C'est moi qui envoie la pub.
Fabrice, on va te priver d'affaires pendant 48 heures.
Déjà.
Appelez Pierre Dorion.
Salut Fabrice.
À très vite.
Ciao.
Pierre Dorian le mettrait, tu penses?
Ah oui, je pense qu'il le mettrait avec moi à la table.
Non, mais il est lucide, Pierrot. Non, pas...
Mais vous vous rendez pas compte du talent, je crois. Je crois que vous vous rendez pas compte du talent qu'il avait.
C'est un moment, faut faire un truc quand même.
Comment ça, pour faire un truc, il est venu en... Il a gagné la Copa Libertadores avec Santos à 16 piges et demi.
On parle de la sélection, il est
et alors, et même avec la, même avec la sélection, c'est le deuxième joueur qui a fait le plus de sélections au Brésil.
Il a gagné. Mais
il n'y a pas une compétition
réussie. Il est champion du
monde. Mais, il a gagné il a gagné une Copa América. La Copa América, c'est naze. Il a gagné Copa América. Il a gagné Copa América. Il a gagné la Ligue des Champions d'Europe. Il se fait trucider.
On parle de la sélection.
Mais il se fait trucider dans une Coupe du Monde où il est monstrueux. Mais le mec, il lui met un coup de genou au niveau de la colonne vertébrale.
Mais alors, ils se font à faire, nous.
Mais ben, c'est pas de sa faute.
Bah, c'est pas notre problème.
Sinon, il n'est pas dans les jambes là-bas. Il est pas dans.
L'actu du jour dans quelques instants, on va parler de la réussite au penalty. Et les tables reviendront.
Moi, je mets caca devant.
Non, jamais de la vie. Jamais de la
Ronaldinho est devant.
Rivaldo devant.
Ronaldinho, il est devant.
Ah non, il n'est pas devant. En termes de talent pur, Ronaldinho n'est pas devant. Il n'est pas loin, mais il n'est pas devant. Après, la table des Brésiliens, c'est un peu comme la table des Italiens. Elle est grosse. C'est pas une petite table de 4 comme la nôtre. La table des Brésiliens, il y a au moins 10 places.
Réfléchis à la table des Paraguayens. Allez, à
mais le problème n'est pas d'avoir une table de 4 ou 10, c'est combien on met dans
le gratin.
Bah
là, c'est le gratin.
À un mariage, t'as la table des mariés, la table des parents,
machin. Mais là, c'est le gratin.
Neymar, il est à la table à côté des shots avec les mots.
Mais n'importe quoi. Il y a Zico, Socrates.
Avec les animateurs, avec les ballons. Il y a les animateurs avec les ballons. Neymar, il est là. Je les ai pas. Il joue et il essaye de convertir les mots au poker.
Je les connais pas tous, mais je pense que Garrincha, il doit pas être loin d'être à la table aussi.
Oui, tout à fait.
On parle
devant Neymar.
Garrincha, Neymar, c'est pas la table.
Qu'est-ce que tu viens mêler Garrincha à cette discussion? Laisse-le tranquille. Il a pas envie d'être mêlé à...
Garrincha, c'est 100 fois mieux que Neymar.
Il y en a un, il me dit.
Il a un
sur WhatsApp, on me dit Neymar, c'est le serveur de la table.
Non, vous êtes
le serveur. Et il arrive avec des boissons qui sont même pas fraîches.
Allez,
on lui dit, et on lui dit, va me chercher une. Tu sais, c'est le serveur dans les affranchis qui se prend une balle dans le pied.
On y va.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. Il est minuit 35, plus de l'after jusqu'à 1h du matin. On va revenir avec nos tables dans quelques jours. On va organiser ça.
Julien Laurence pourra venir pour nous aider à faire la table des Anglais, parce qu'on galère un peu.
Ouais. Peut-être dimanche, peut-être, ou lundi, on
verra. Mais attendez, parce que là, c'est en train de prendre sur les réseaux de fous, la table.
Oui. Kevin, en fait, j'ai l'impression que les Anglais, ils t'envoient une table de 10 d'un coup. Il n'y a pas de mec qui se détache vraiment. Ça va être compliqué.
Il y a quand même Bobby Charlton, non?
Ça va être compliqué qu'il se détache vraiment.
Harry Kane, ouais.
Harry Kane, Beckham.
C'est comme ils n'ont pas gagné le titre et tout, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a du Sol Campbell à la table?
Non.
Non? Pas de défenseur. Pas beaucoup de défenseurs.
Ils ont une table de 10 d'un coup. Il n'y a pas de table à part.
Ah, je suis pas sûr.
Eux, ils te font une table.
Je rajouterais quand même que Neymar est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne.
Bien sûr, il a marqué contre le Pérou, la Bolivie, le Guatemala.
80 buts.
Ah ouais.
Il y a gros débat aussi sur WhatsApp sur. Ça, c'est un peu plus niche, mais il y a gros débat sur la table algérienne et la table camerounaise.
Ah oui, la table des pays africains.
On en voit toutes.
Très intéressant.
La table camerounaise, la table camerounaise, c'est bon.
Il y a une table à deux avec Roger Milla et Samuel Eto'o.
Non, il y a Mboma aussi.
Eto'o, Milla.
Il n'est pas à la table d'Eto'o et de Milla, Patrick. Ouais. Je l'adore, Patrick, mais il n'est pas à la table de Samuel Eto'o.
Ouais, après, t'as quelques anciens.
Pour les émotions
que j'ai. Antoine Bell, est-ce qu'il est à la table?
Il est à la deuxième
table. Qu'est-ce qu'on va avec les gardiens?
T'as Kala.
Au Cameroun, t'es obligé. Une très grande tradition de gardiens, t'es obligé de faire une table.
Ah, parce qu'il y aura des gardiens. C'est-à-dire qu'à la table.
Il y a Nkono et Bell.
C'est Nkono
le pionnier.
C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a certains pays où la table, tu vas mettre, comme en Italie, tu vas mettre les défenseurs. Ils sont à la table, les défenseurs.
Mais parce qu'ils ont marqué l'histoire. Parce qu'il y a des pays qui avaient des traditions. Ouais. Le Cameroun, quand Kono est arrivé en 82, moi je regardais la télé, je dis c'est quoi ce gardien? Le mec, il saute partout, il va choper des ballons.
Et Kono, était titulaire alors que Bell était sur le banc.
C'était fou. Et après, il y a eu une vraie tradition
après,
des gardiens.
La table des Algériens, t'as beaucoup d'anciens. Tu vas mettre Bellini. Ah,
le truc, c'est qu'à la table des Algériens, tu vas quasiment mettre que des 10. C'est que des tripoteurs de ballon.
Ouais.
Ouais, mais ils ont l'ADN.
Que
ils ont
des
l'ADN
10 dans, enfin, que des 10 coup, à ma table.
Tu vas mettre que des 10.
Numéro 10 dans ma team.
Mais en plus, c'est Sharif Guemour qui avait écrit un article Le joueur algérien est un 10.
Ouais.
Ils se battent pour être 10.
Et les Marocains, ils sont quoi alors? À la table des Marocains.
C'est un peu plus varié.
Mais il y a aussi. Il y a aussi des tables qui peuvent être très très intéressantes. C'est les tables des petits pays, tu vois, où c'est des tables à. C'est une table solo. Tu vois, la table dans le fond du resto.
On va faire les gros pays avant, quand même.
Non, mais c'est marrant quand même. Ouais, ou alors la table de tous les meilleurs joueurs des petits pays. Je sais pas, il y a une table à faire. C'est la table des célibataires.
Il va falloir convoquer Julien, Polo.
Moi, je pense que Sharif Guemour, il doit être pas mal sur l'histoire du foot parce qu'il y a aussi des générations qu'on a moins connues.
Ah, t'as des. Oui.
Parce que les Anglais, t'es obligé de mettre Bobby Charlton.
Ouais.
Gordon Banks.
Ah oui, t'es obligé de remonter loin avec.
Non, mais en fait, il faut faire des règles. C'est à combien de personnes à la table. On peut pas dire dans un pays.
Le principe, c'est que tu n'as pas. Ah ouais. Parce qu'il y a des tables où il y a des pays où Messi, Maradona, ils ont une table à deux. Ouais. Et après, tu fais une autre.
Ouais. C'est, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai dit Cristiano, il est seul à sa table au Portugal.
Non, mais après, ce qui serait drôle, ce serait
ça, de faire, dis, ce serait moi, de faire des classements de
table. Tu vois, c'est-à-dire que, bon, voilà, comme on disait, il y a la table des restos 3 étoiles, puis après, il y a la table des restos 2 étoiles.
Alors, on va faire que chacun présente 3 tables. Il peut y avoir une table de deux, une table de la première table, la deuxième table, et après le banquet pour tous les autres.
On a choqué du monde, on a oublié la table des Belges.
Ah, les Belges, ils méritent aussi leur table.
Oui. Enzo Schifo.
On verra.
Enzo Schifo,
ouais.
Jean-Marie Pfaff.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On verra.
Et il y a aussi, comment il s'appelle, le Belge, Luc Ninis.
Et je pense que. Non,
mais attends, moi, je sais pas. Il y a De Bruyne.
Tu mélanges tout.
Luc Ninis.
On convoquera un journaliste belge.
Luc Ninis, il est pas avec la table des Belges.
Que notre ami qui était là avec
nous. Ouais, attendez, je vous propose juste un truc. Ce soir, on fait la table des Pays-Bas.
Pour maintenant, là.
On fait la table des Pays-Bas, je suis là.
Il est sur Aix, il est regardé.
Tu vas mettre une table à trois avec Cruyff, Gullit et Van Basten. Voilà, ils sont trois à leur table. Ils sont trois à leur table.
Mais il n'y a pas.
Et si tu veux, je te prends Bergkamp.
Il y a pas un Sidorf quand même. Et Bergkamp.
Richard.
Sidorf en sélection, non. Sidorf en sélection, c'est pas Sidorf.
Van Basten, Van Basten.
Van Basten, Gullit, Cruyff, c'est une table à trois pour moi. Ils font une table à trois.
Ouais. Il n'y a pas un petit Robben, un truc quand même.
Non.
Et Niskens. Il n'y a après, pas la génération Cruyff, il n'y en a
après,
pas.
Après, t'as une deuxième table où effectivement, après, tu vas
non,
mettre.
Non, mais t'es obligé de mettre Bergkamp.
Bah, là, tu vas mettre Bergkamp
non,
dans
non,
la deuxième
Bergkamp,
table.
Non, il est dans la table.
Je n'irai pas.
Pas,
ah
dans,
non,
la, pas dans la table.
Bergkamp. Le but qu'il met à Marseille. Denis Bergkamp. Denis Bergkamp.
Mais Gullit et Van Basten, ils ont gagné un titre. Les Pays-Bas, malheureusement.
Ils en ont gagné qu'un, les mecs.
Et alors, ils étaient là tous les deux. Oui, oui. Et l'autre, il a gagné trois ballons d'or et Gullit un ballon d'or.
Ouais, Bergkamp, t'es obligé. Bergkamp et Robben, par exemple, t'es obligé.
Il est à la deuxième table.
Mais Robben, il fait une finale de Coupe du Monde.
Il est à la deuxième table.
Mais Robben, il fait une finale de Coupe du Monde.
On va appeler un spécialiste des Pays-Bas parce que là, il est.
Non, je suis désolé. Robben.
Robben n'est jamais à la table.
Mais si. Robben et Bergkamp.
Non, mais
pour la nouvelle génération.
Le problème, c'est que c'est un Biergarten. Il fait des tables de 50. Je peux.
Cruyff, Gullit, Van Basten, c'est à part dans l'histoire des Pays-Bas, voyons.
Moi, je pense que Bergkamp, t'es obligé minimum de le mettre. Pour le talent, t'es obligé.
Bon, on appellera Chérif Guébourg pour les Pays-Bas.
J'adore Bergkamp, mais il est table 2.
Mmh. Bergkamp,
il y a une table
2.
À 3 et lui, il est à côté. Il est chef
ça,
de l'autre.
Tu veux vraiment faire l'élite.
Bah oui, c'est l'élite. Gullit, Van Basten, Cruyff, c'est à part.
Donc, après, dans ce cas-là, la table française, pourquoi tu mets Griezmann?
Il est avec Niskens.
Mais tu peux pas mettre Griezmann si tu mets pas Bergkamp. Tu peux pas mettre Griezmann si tu mets pas Bergkamp en France. Dans ce cas-là, c'est les trois. Alors, c'est Mbappé.
Il y a son histoire.
Oui, mais.
Sur l'Angleterre, on a oublié la Lineker, quand même. Très important, la Lineker en Angleterre.
Là, mais les Anglais, ils vont balancer une table de 12 tout de suite. Mmh. Ils n'ont pas des mecs qui se déchargent.
Je vois le Gascogne.
Pour les Pays-Bas, je veux une table de 4.
Lui, c'est la table avec Neymar, lui. Encore que Gascogne a plus fait rêver peut-être les Anglais. Oh non.
Bon allez, passons à la suite. On va organiser ça. Mais le temps passe. Je voulais vous raconter une anecdote sur Mbappé pour conclure sur lui. Klopp, qui est, je sais pas si vous avez vu cette histoire, c'est assez drôle. Klopp est consultant en ce moment à la télé allemande. Il a raconté une histoire quand il était coach à Liverpool. Ils ont voulu en 2017 recruter Mbappé quand il était à Monaco. Et en fait, ils voulaient que ça se fasse totalement dans la discrétion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Ils ont pris un avion. Ils sont venus à Nice en avion. Ils ont pris toute la famille Mbappé dans l'avion. Ils sont redécollés et ils ont fait des tours autour de Nice. Tchoum, tchoum, comme ça, ils ont fait les tours.
Moi, je connaissais l'histoire.
Histoire de discuter. Ils ont mangé, ils ont pris le temps, ils faisaient les tours.
C'était une histoire qui officiellement.
Ils faisaient les tours.
C'était une histoire qui était un peu connue de certaines personnes, mais qui était officiellement secrète.
Mais au final, Mbappé n'est pas allé à Liverpool.
Klopp l'a révélé. Et un peu, mais c'est pas non plus le secret de l'année.
Je voudrais pas faire mon rabat-joie, mais c'est pas terrible pour l'empreinte carbone, quand même.
Mais pour la discrétion, c'est pas mal. T'es sûr que la personne va te choper.
Wow, ça va, tu te mets dans une pièce, tu fermes la porte, c'est bon.
Bon, voilà pour l'anecdote. Alors, j'en arrive au pénalty. Pour l'instant, en Coupe du Monde, cette année, il y a eu 60 pénalties. Alors, ça concerne aussi.
Et disons que notre ami coiffeur, il est où?
Il arrive. Ça concerne aussi les séances de tir au but. Séances de tir au but et pénalty en cours de match.
Bah oui,
il y en a eu 60. Seulement 39 de ces 60 ont été réussis. Donc, on a un taux de réussite de 65%, le plus bas en Coupe du Monde depuis 60 ans.
C'est pas faute d'expliquer
pourquoi. C'est pas ce chiffre-là que moi j'avais vu. C'est le chiffre des pénaltys tirés avec la course d'élan saccadée. Tu l'as vu ce chiffre-là?
Je l'ai pas vu celui-là.
Ah, tu l'as pas vu?
Non, je l'ai pas vu.
Ah, bah c'est celui-là, je pensais quand je t'ai demandé pendant la pub. Ah, bah alors, non, je vais te le donner moi. Je vais te le donner. Ils ont étudié avec course d'élan, avec qui marque un arrêt. C'est celle que j'ai, la course d'élan qu'on dénonce tout le temps, là, qu'on trouve con. Taux de réussite? Vas-y, petit quiz. Toi, je te l'ai donné tout à l'heure. Petit quiz, Gilbert.
60%.
Combien?
60.
53.
53.
On est limite à 1 sur 2. Si on me dit que ça n'a pas d'influence, alors là, pardon, mais on comprend rien.
Bah, Samuel Umtiti n'est pas là pour te répondre. Il n'était pas d'accord hier soir.
Et, non, mais de toute façon, c'est sûr que ça a une influence.
Et globalement, les pénaux, le chiffre officiel de pénaux, tout confondu, machin, normalement, t'es entre 78 et 80% de réussite. Si avec la course saccadée, tu descends à 53, qu'on vient de pas me dire que ça n'a pas une incidence quand même, bordel.
Tu sais, c'est pareil, ils ont fait des statistiques sur le temps que tu mets entre le moment où l'arbitre siffle et où tu démarres ta course. C'est-à-dire que il y a une grosse propension à rater ton pénalty si tu démarres moins de 3 secondes après que l'arbitre ait sifflé. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre un temps avant de démarrer ta course. C'est des choses qui pour moi sont assez logiques. Il faut pas se précipiter, on dit, mais en tout cas Gilbert, on en a assez parlé pendant cette Coupe du monde, c'est bien sûr normal qu'aujourd'hui il y ait plus de pénalty ratés, parce que malgré que la règle des gardiens, au début on avait râlé que les gardiens mettent le pied sur la ligne, aujourd'hui leur technique, leur allonge, leur explosivité, le travail aussi de vidéo pour voir où les gardiens où les joueurs ont les zones préférentielles et tout, font que le tireur doit changer ses habitudes, le tireur doit tirer à du poteau, le tireur doit tirer en haut, etc. Et c'est beaucoup plus dur de marquer.
Jorge Jesus, nouveau sélectionneur du Portugal.
La première phrase qu'il a balancée, j'ai déjà eu peur.
Ouais. Il a dit Cristiano Ronaldo ne sera jamais un problème. Voilà. Okay, il a dit. Alors, il l'entraînait en club. Hein. Donc, en fait, c'est marrant. La polémique était au début de la Coupe du Monde. Martinez va être le futur entraîneur de club de Cristiano. Finalement, d'ailleurs, c'est pas le cas. C'est pas lui.
Bon, écoute.
Et donc, du coup, Jorge Jesus. Hey. Ancien entraîneur devient sélectionneur. Écoute,
en même temps, on va arrêter de se casser la tête avec le Portugal. Si les premiers matchs du mois de septembre, Cristiano Ronaldo revient, Jorge Jesus l'appelle. Bah, écoute, hein, ils font ce qu'ils veulent.
Ah bah, il a dit tant qu'il sera joueur,
s'ils veulent se mettre dans le mur encore une fois au prochain Euro, qu'ils le fassent et voilà.
Ouais, non, mais moi je suis déjà désabusé depuis à peu près 6 ans. Donc à chaque fois tu le dis suffit, et à chaque fois t'as les fanboys de Ronaldo, alors que moi j'étais un fan absolu de Ronaldo.
Là, mais bon, si
qui te
dit
ah mais comment tu peux dire ça, faut respecter.
Avec tous les joueurs qu'ils ont, tu continues là, c'est plus possible. Plus possible. Stop.
En effet, je suis un peu d'accord avec Daniel là-dessus.
Ah bah non,
franchement, si les mecs veulent continuer à se faire plaisir, à croire que c'est le FC Ronaldo, bon bah écoutez, allez-y.
Dans un instant, nous sommes de retour avec un instant capillaire. Et j'ai aussi des infos mercato à vous faire partager, parce qu'il se passe quand même des choses en Ligue 1 pendant ce temps-là.
Des infos qui seront forcément moins importantes.
Je me fais insulter par Hervé, on a oublié Georges Best dans la table des Anglais.
Bah, il n'est pas anglais, il est irlandais. Donc,
forcément. C'est peut-être pour ça. Merci Hervé.
Et lui, il est tout seul à la table des Irlandais du Nord.
Irlandais du Nord, oui. Donc,
Irlandais du Nord, il est tout seul.
Avec Rory McIlroy, mais ce n'est pas le même sport. Et Asdin nous dit Neymar, il est à la table de poker.
Exactement.
Tu peux faire une table de poker.
Je t'ai dit, c'est une info, il vient d'arriver à Vegas. Et il joue demain c'est samedi, il joue un tournoi à 50 000.
Allez, à tout de suite dans l'after.
C'est bien, hein, un sponsor.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est minuit 46, la nuit de l'after continue pour encore un petit quart d'heure avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz. Nous sommes là sur YouTube avec toujours beaucoup de monde avec nous, également sur RMC, bien sûr. Hier, Daniel, et c'est un de ses combats, Daniel, Kevin, tu as remarqué depuis quelques temps.
C'est pas vraiment un combat, c'est une remarque. C'est une évidence.
Oui, mais tu veux convaincre tout le monde avec ton
mais c'est
théorie.
Tellement évident.
Donc, la théorie du bandeau. La fameuse théorie du bandeau, c'est le joueur à bandeau.
Le joueur à bandeau avec les cheveux bien placés, mais qui en fait gêne. Mmh. Et on voit qu'il y a une attention prêtée au look qui, à mon avis, dérange la.
Donc le joueur à bandeau ne peut pas performer comme le joueur sans bandeau.
Il peut performer, mais il perd 5-10%. Il y a qui dans. Il y a Madueke, il y en a un autre qui est très attentif à ça aussi.
Il y en a plein, pas dans l'histoire du foot.
Koundé en équipe de France.
Il y a aussi
le Koundé à Gervinho,
le Néerlandais là. C'est impossible qu'elle le gêne pas. Vraiment, il a un bonnet de ski.
Le Néerlandais, comment il s'appelle?
Il a un bonnet de ski.
Néerlandais qui joue à Liverpool arrière droit, j'ai oublié son nom. Qui était en Allemagne.
Frimpong,
ouais.
Exactement. Lui, pareil, ça le gêne à tous les coups. À tous les coups, ça le gêne.
Donc ça veut dire que Gullit et Rijkaard, ça les gênait aussi?
Non. Rien à voir. Ils étaient complètement tirés en arrière, les cheveux.
Non,
Gullit,
je pensais que tu faisais référence parce que j'ai bossé aujourd'hui sur les Pays-Bas. Edgar Davids, ils étaient très tirés.
Ouais.
Et Seedorf également, mais Seedorf a oscillé entre ça et Chauve.
Ouais.
Et Chauve, il gagne la Ligue des Champions.
Il a gagné avec les dreads. La première, il a gagné avec les dreads.
Avec les dreads, mais en arrière. Ouais. Très en arrière. Donc ça ne gênait pas la vision.
C'est quoi l'Argentin? C'est Passarella, l'entraîneur argentin qui voulait plus que
les joueurs. Passarella, c'était encore différent. Parce
il voulait pas de cheveux longs.
Pas de cheveux longs, mais je sais pas, Passarella.
Il y avait de ça dans son truc. Il disait, c'est pas possible pour jouer au foot.
Non, lui, ce qu'il disait, c'était que, en fait, tu prêtes trop d'attention à te coiffer et à faire attention à ce que ça ne te gêne pas. Donc, en fait, ouais, mais le problème chez Passarella, c'est que quelque part, il y avait un. Pour se souvenir de qui il était, il y avait un peu une dimension politique aussi dans son propos qui était un peu limite, quoi.
Ouais.
Mais bon.
Bon. Et comme lui, l'after.
Tu fais trop attention à ça, donc t'es déconcentré par rapport au jeu.
Alors, comme l'after est toujours à la pointe de l'actu, on a un spécialiste avec nous, coiffeur de star. Étienne Sekola est là. Bonsoir, Étienne.
Salut, gars.
Ah, Étienne, enfin voilà. Quand il m'a contacté, mais qu'est-ce que j'étais content, il m'a trop fait rire.
J'ai pris un fourré hier et j'ai été obligé de t'envoyer un message, Daniel.
J'ai kiffé.
Bon, alors Étienne, quand on dit coiffeur de star, c'est quelle star?
Quelle star?
Mais bah, il a pas le droit de le dire, justement.
Pour moi, c'est plutôt cinéma, musique.
D'accord.
J'ai eu quelques footeux à une époque, un peu du PSG, mais pas beaucoup.
D'accord, non, mais il n'y a pas une grande star que tu peux citer, que tu as coiffé, tu peux lui dire, lui, bon, je l'ai coiffé, ou elle, histoire de nous en mettre un peu plein la vue, quoi, tu vois.
Vu que je suis à Paris, c'est plus facile pour moi, mais Pierre Ninet, par exemple.
Pierre Ninet, ouais.
François Civil.
Ah, ouais, c'est une génération.
Pour les fleurs du cinéma français.
T'as jamais coiffé Daniel Riolo?
Non, mais d'un coup, là, j'ai peut-être d'y aller.
J'ai une proposition pour Daniel. Hein.
Ah oui. Des dreadlocks?
Ah, pas des dreads, mais si Daniel il passe entre mes mains, je lui refais monter sa cote de. Il prend 20 points.
Et maintenant, tu veux faire quoi?
Mais gars, je peux tout faire. Je peux tout faire, mais surtout.
Ah, si tu peux tout faire, c'est moi qui dois passer entre mes mains.
Non, mais tout se joue dans le détail justement, et c'est pas forcément genre tout coupé qui fait que tu vas te ressentir avec la meilleure coupe. Et quand par exemple hier tu parlais des gars avec les bandeaux, vous en parliez tout à l'heure, c'est obligatoire que ça les gêne, c'est obligatoire, c'est sûr, ils doivent transpirer, ça doit aller compressé. Et surtout, avant de partir sur le terrain, ils doivent être en train de bien se déplacer. Là, je pensais à, comment il s'appelle, à Diomandé.
Diomandé, il a le même style, ouais, t'as raison.
Tu vois, il a essayé de placer ses mèches là correctement. C'est sûr qu'il y pense tout le temps. Et ça doit même le gêner pour faire des têtes. Pour faire des têtes.
Bah oui. Mais évidemment, mais en fait, ce qu'il dit est tellement évident, je comprends pas que ça vous alerte pas plus, en fait.
Non, mais ça nous alerte, mais si le mec il est bien comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la liberté de chacun.
Non, bien sûr.
Mais bien sûr, mais ça, évidemment, moi je n'ai pas envie de le faire.
Non, mais que ça puisse être gênant,
on parle de tout
sûr.
Et on fait une remarque là-dessus. C'est plus pour se marrer. Moi je ne suis pas en train de l'accuser, le fait pas et tout, il manquerait plus que ça. Il le fait, mais je trouve que ça traduit une espèce d'attitude. Soit à fond sur le match. Alors
du coup, je suis désolé, messieurs, je vous écoute sur Koundé, etc. Mais je suis plus du tout intéressé par ça. Moi, je veux voir quelle coupe aurait Daniel, en fait. S'il y a que ça qui m'intéresse.
On pas dû dire ça maintenant.
Qu'est-ce qui va changer?
Tu fais les cheveux
un peu bouclés ou pas? Parce que moi, je suis intéressé par gagner 20 points.
Franchement, Kevin, je fais tout. Kevin, ça va, t'es bien coiffé, hein?
Ouais, écoute, merci.
Ouais, ça va, il est.
Moi, j'ai toujours suis la même coiffeuse. Ou je suis le même coiffeur, je reste, je suis fidèle.
Tu mets bien ton petit gel et tout, c'est impeccable, bien sûr. Mais par contre, il y a plein de joueurs de foot. Mon petit problème aujourd'hui, c'est que tous les joueurs de foot, ils font tous la même chose. Alors que quand moi, j'ai commencé à regarder le foot, je trouve qu'il y avait des trucs un peu plus iconiques, même culturellement.
Qu'est-ce que tu penses de la coupe de R9?
Attends, vas-y, continue les coupes. Alors, c'était quoi les différences? Raconte un peu, ça m'intéresse.
Par exemple, les Argentins, je sais pas, il y avait un truc un peu culturel, mythique, de se dire les gars avaient un peu les cheveux longs, le côté un peu mouillé, des petits bandeaux très légers, juste pour dégager les cheveux. Les Italiens aussi. Ouais. Tu trouvais ça chez les Italiens. Mmh. Là, maintenant, tu vois les Argentins, c'est des militaires. Ils ont tous les cheveux dégradés, hyper rasés. Même les Italiens, c'est ça. Ouais. Les Français, c'est pareil. Tous les mecs, ils font des tapers. ce qu'on appelle les tapers, ils se ressemblent tous en fait. Alors qu'avant, il y avait des petites.
Il y a moins de personnalité. Il y a la petite coupe Mulet maintenant quand même.
Non, non, mais là, j'allais y venir. La coupe iconique, excusez-moi, c'est les Tchèques, c'est Pavel Nedved. Pavel Nedved avec le Mulet.
Nedved, c'était pas vraiment un Mulet.
Je n'accepte pas ça. Les Allemands de l'époque, là, avec la choucroute sur la tête, les Rudy Voleurs et compagnie.
C'est plus années 80.
Mais qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle coupe Mulet là qui revient?
Comme d'hab, pas sur tout le monde, mais il faut avoir un pur style. Faut que tu sois très assumé dans ton look en général. Parce que les gars, moi, je gère les cheveux, mais niveau style, je peux devenir un ex, je peux être un de vos disciples aussi. Hein. Ouais. Attention.
Ah bah attends, niveau style, on est pas mal dans l'after. Quelle est
la personnalité de l'after à qui la coupe mulet irait le mieux? Florent Gautreau.
Ouais, Florent Gautreau aussi.
Après, attention, il y a différents types de coupes mulet. Maintenant, il y a la coupe mulet, mais c'est pas forcément de nuque longue. C'est juste
non,
un peu
dégagé. Non, c'est pas des nuques longues, ouais.
Moi, c'est ce que j'ai fait un peu là. Enfin, c'est un peu dégagé sur les côtés, mais un tout petit peu plus long sur derrière. C'était pour aller au state.
Mais ça reste quand même, et tiens, tu confirmeras, ça reste quand même un sujet, bon, là, on blague, enfin,
non, mais dans les vestiaires, c'est important.
Mais exactement.
T'étais au Portugal, mon pote.
Exactement.
Au Portugal.
Dans les vestiaires, mais c'est un marqueur social.
Les gens se battent pour être devant la glace au Portugal.
Parce que le gars peut se faire chambrer, donc ça a un impact sur sa personnalité.
Ah, bien sûr.
Ça a l'air de rien, c'est comme la mode, à chaque fois, on dit, ouais, parler de foot et tout, mais tout est hyper important. Aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux,
les choses sont commencées. L'histoire de Ronaldo en 2002, pourquoi il se fait sa fameuse coupe ridicule, là, où il est juste un bout de cheveux devant la. En fait, il dit aux autres, je vais faire un truc, vous allez voir, je vais attirer l'attention sur moi, ils vont plus parler que de moi, et vous allez être tranquille. Et donc, il se fait cette coupe, et effectivement, tout le Brésil dit, mais c'est quoi ce truc trop moche? Et en fait, ça devient un running gag dans les médias et tout, et en fait, il a eu totalement, avec sa coupe de cheveux, il a totalement focalisé l'attention sur lui.
Et il y a autre chose là-dessus.
C'est quand même une des coupes les plus ridicules du football.
Si tu es au courant, mais aujourd'hui, dans beaucoup de vestiaires, il y a un coiffeur. C'est-à-dire qu'un des joueurs, voilà, c'est un peu manier la tondeuse et va juste, il va pas faire des grandes coupes, mais il peut juste faire les contours, comme ils appellent ça maintenant, ou juste faire le taper, c'est-à-dire juste raser un petit peu autour des oreilles. En tout cas, moi, dans mon équipe, c'était le cas l'année dernière. Et du coup, c'était même un moment de convivialité après l'entraînement, tu vois. Il se mettait dans la douche.
Tu les vois, ils se filment. D'ailleurs, maintenant, ils se filment tous. Ouais. Tu vois, ils se filment tous en train de se faire leur coupe avec leur coiffeur ou avec le gars qui fait ça et ils sont contents. Alors ils sont vraiment, ça fait partie de leur move.
Après le gars qui a vraiment tout déchiré sur la coiffure,
c'est Beckham, non?
Exactement, ce que j'allais dire.
Lui qui avait une attention particulière.
Beckham complètement dingue, c'est-à-dire que si vous regardez Griezmann.
Mais Griezmann, il a copié sur.
Voilà, Beckham. Il a copié
parfois,
sur Griezmann.
T'as l'impression en une semaine, il arrivait à se faire pousser les cheveux.
Exactement. En fait, Griezmann a copié sur Beckham, qui est son idole, notamment ceux qui ne le savent pas. Et Griezmann joue avec les manches longues parce que Beckham joue avec les manches longues, par exemple.
Quoi, il faisait des ajouts capillaires, hein, Griezmann.
Non, c'est juste que Beckham en fait a eu différentes phases dans sa carrière. Il a eu les cheveux mi-longs, puis il a eu les cheveux très courts. Il a eu les cheveux très longs, puis il a eu les tresses, puis il a eu la coupe punk, puis il a eu la coupe mulet. Et en fait, si tu regardes tout au long de la carrière de Griezmann, il a eu aussi les différentes phases, les mêmes sensiblement que Beckham. Enfin, il a rajouté les cheveux roses.
Bon, bah Étienne, merci, c'était passionnant.
Ah, j'ai adoré ce moment, Étienne.
Regardez bien à quoi ressemble Daniel, là. Parce qu'on va commencer à entamer le processus là.
Magnifique.
Ça va être énorme.
Il me fait peur.
Étienne Sécola, merci beaucoup Étienne.
On va rester en contact. On va essayer.
Faut suivre sur Instagram Étienne, moi ça m'intéresse.
Allez, vas-y. On reste en contact.
Allez, salut. Qui viennent dans l'émission. Excellent.
Va falloir qu'ils jugent les coupes.
Merci beaucoup.
Le jour où on parlera des coupes, on n'invitera pas Gilbert et Walid.
Non. Mais Walid, la discussion peut le faire marrer.
Attention, il y en a un qui a gros potentiel, c'est Nicolas Jamain.
Ah, bien sûr.
Nicolas Jamain.
Bien sûr.
On croirait pas comme ça. Voilà. Étienne a dit en off à Jimmy, il faut que Daniel laisse pousser pour qu'on mette en place le processus.
Exactement.
Ah putain, j'ai du mal à laisser pousser. Moi.
Ah bon? T'as jamais eu les cheveux longs?
Ah, quand j'étais plus jeune, je suis daron maintenant, j'ai du mal.
Ouais, mais les cheveux longs, ça doit bien t'aller, les cheveux longs.
Ça me va pas.
Enfin, la barbe, tu l'as jamais la barbe?
Ben, ça me va.
On n'a pas demandé à Étienne qu'est-ce qu'il pensait. Est-ce qu'il faisait la barbe aussi?
Ah oui, on sait.
Ou est-ce qu'il faisait juste les cheveux? Parce que la barbe, ça fait partie du long.
Tiens, j'ai une dernière info à vous donner. Vous savez que la FIFA et les Américains sont prêts à tout commercialiser.
Bien sûr.
Tout est business.
Ils ont récupéré les cheveux de Neymar?
Non, là, ils te proposent un truc, Kevin, si ça t'intéresse. D'ores et déjà, ils mettent en vente des morceaux de la pelouse de la finale.
Ah non, ça m'intéresse pas.
Donc, il te dit, si vous voulez acheter un morceau de la pelouse de la finale, vous pouvez déjà la précommander. Il y a différentes tailles. La taille la plus petite, alors c'est assez petit, hein, c'est 6 cm sur 6 cm. Donc
ah ouais?
C'est quand même pas grand chose, ça fait un petit carré ridicule.
C'est combien?
390 balles.
Ah
C'est des et le plus gros morceau.
Moi, chez mes parents, il y a de la pelouse si je découpe un truc. Là,
c'est pas, le plus gros morceau, bleu, c'est 8 cm sur 8, c'est 2500 balles. Mais avec ça, t'as une plaque avec marqué certification, je sais pas quoi.
Mais comment tu l'entretiens en fait? C'est ça que je comprends pas.
Je
sais la mettre dans ton jardin.
Tiens pas, tu l'enlèves. Non, c'est sous cadre, voyons.
Ah, c'est sous cadre, même ça s'abîme pas.
Bah, je pense que si. Après, ça joli.
Ça m'intéresse.
Tu mets du cabé jardin dessus.
Bon, voilà, c'était une information cruciale.
À mon avis, vu qu'il y a des contrefaçons partout, ils vont faire des contrefaçons.
Je vous ai pas parlé mercato, mais je voulais quand même juste vous dire que Adeyemi et le Barça sont tombés d'accord et que Rennes a recruté un Américain, Brian Reynolds, un latéral international.
Le stylo avant
Peut-être.
Ou le mec qui a racheté Wrexham.
Ouais. Bah écoute, tu pourrais jouer avec Tony Parker, ça ferait une équipe de stylo. C'est fini pour ce soir. Demain, allez, ciao. L'after sera là bien sûr avec un autre match qui promet entre l'Angleterre et j'ai un trou. Et la Norvège bien sûr. C'est demain soir sur RMC. Dans la nouvelle nuit de l'after de samedi soir. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.